Bonsoir à tous. Alors, on va pouvoir démarrer en faisant l'appel. Noël Le Bouter est présent. Alban Lancel.
Présent.
Catherine Housset. Elle arrive. Philippe Duc.
Présent.
Stéphanie Chute.
Présent.
Serge Hamelin.
Présent.
Qui est secrétaire de séance aujourd'hui. Merci, monsieur Hamelin. Édith Lyon.
Présent.
Dany Farois.
Présent.
Chantal Regnault-Gallois.
Présent.
Armand de Maigret. Jules Nouganouga.
Présent.
Fabrice Soulier est excusé, représenté par M. Bruno. Nathalie Pieuxergue.
Présent.
Catherine Housset vient d'arriver. Louise Fente-Marquez est excusé, représenté par M. Lancel. Valérie Jacqui. Sylvie Poirier.
Présent.
Angélique Rapaille.
Présent.
Frédéric Bruno.
Présent.
Nimka Sigé.
Présent.
Cédric Contant.
Présent.
Susanna Martinet.
Présent.
Mahmoud Gunner.
Présent.
Sylvie Galochet.
Présent.
Michel Billou sera en retard. Il est pour l'instant représenté par Clotilde Lagoutte. Mohamed Kerbach. Guy Bertrand Chigaya.
Présent.
Nathalie Causeron.
Présent.
Clotilde Lagoutte et Émeric Durox, qui est arrivé de son conseil de place. Je vous remercie. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est donc l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du conseil municipal en date du 30 novembre. Nous n'avons pas reçu de remarques. Oui, Madame Lagoutte. Merci, Madame le maire, Mesdames et Messieurs. Donc, pour la seconde fois, nous serons amenés à voter contre le procès verbal de la séance. Je vais vous en expliquer, bien entendu, les raisons. Une fois de plus, nous constatons que le règlement intérieur n'est pas respecté. Celui-ci précise en effet dans son article 13 concernant les questions écrites. Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale. Il lui sera alors répondu par écrit. La question et la réponse seront publiées en annexe du compte-rendu de la séance du conseil municipal suivante. Or, nos questions et les réponses que vous nous avez apportées tardivement ne figure nullement dans le procès verbal. J'ajoute que présenter ce procès verbal un mois et demi après le déroulement d'une séance qui a été de plus tenue à huis clos n'est pas acceptable. Et nous regrettons profondément que vous ayez abandonné la publication d'un compte-rendu synthétique comme cela se faisait auparavant au profit d'un compte-rendu totalement expurgé des débats. Enfin, en page 6, Monsieur Lancel nous avait précisé que des pièces complémentaires avaient été réceptionnées tardivement par vos services et qu'elles devaient nous être fournies. Nous ne les avons pas reçues. Je voulais savoir si vous pensiez nous les envoyer prochainement. Enfin, puisque la seconde opération où vous demandez le huis clos, vous n'avez toujours pas pris de disposition pour diffuser la séance en vidéo. La démocratie est bien mise à mal. Nous voterons également contre votre demande pour la déclaration suivante. Cela méritera de reprendre la parole. Merci, Madame la Maire. Très bien. J'avoue que je n'ai pas bien compris. Vous nous reprochez à la fois de ne pas faire de compte-rendu synthétique et en même temps de publier un compte-rendu trop complet. Et vous dites qu'il est en même temps expurgé des débats. Alors, s'il est expurgé des débats, c'est... J'avoue que ce n'est pas très, très clair.
Le compte-rendu que vous avez indiqué sur Internet, que vous avez mis sur Internet, il n'y a pas les débats. Il y avait juste les délibérations.
Le compte-rendu littéral ne peut être mis sur le site qu'après son vote au conseil municipal suivant. Il ne peut pas être mis sur le site s'il n'a pas été validé par le conseil municipal.
Ça pouvait être en attente de validation, mais
vous avez la réponse. Il y sera à partir du moment où il aura été validé ce soir par le conseil municipal.
Voilà. Et concernant les questions écrites, elles seront du coup jointes à ce
comme indiqué dans le règlement.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais elle devait être jointe déjà sur le c'est pour ça que nous retrouvons.
Concernant distribuer ces produits locaux en circuit court, notamment à Fontenay, mais aussi à Montreux, à chaque fois de façon gracieuse. Nous avons fait le choix, je sais, contrairement à votre précédente majorité, d'accepter la même chose à Nangy, d'abord à destination des Nangyciens, pour que les Nangyciens qui souhaitaient s'approvisionner en circuit court puissent le faire à Nangy sans avoir besoin d'aller à Fontenay. Nous avons choisi de le faire également parce qu'il n'y a aucune offre commerciale équivalente sur la commune. Et nous avons bien précisé à Madame Lamarre que dans le cas où une activité commerciale s'installerait sur la commune, cette convention ne serait plus possible. Et enfin, maintenant ça m'a échappé, mon dernier point. Ça me reviendra peut-être.
Donc, Madame le maire, sur la couronne.
Ah oui, voilà. Il n'y a pas de transaction économique au moment de l'installation de Madame Lamarre dans la salle des râteliers. C'est-à-dire que ça n'est qu'un dépôt. Les gens viennent simplement récupérer des produits. Il n'y a pas de transaction dans la salle municipale.
Oui,
voilà. Et je tiens à préciser également qu'avec le couvre-feu instauré à partir de 18h, l'activité de la ruche qui dit oui est suspendue.
Donc c'est un choix que vous faites tout à fait, mais du coup, dans la convention, je pense qu'il y a quand même une erreur, il ne s'agit pas d'une association, donc il faudrait peut-être revoir
l'envers. On vérifiera.
Voilà, parce que après c'est votre choix, libre à vous, mais du coup, que ce soit cohérent avec le véritable statut. Je vous remercie.
On gardera. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les conventions ? Délibération, je voudrais simplement vous annoncer la suppression de la délibération numéro 11, comme vu en commission mercredi. Donc cette délibération est soustraite à l'ordre du jour. Voilà. Alors ensuite, donc première délibération, il s'agit donc de la tenue du conseil municipal à huis clos. Qui est contre ? Donc 6 contre. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour concerne l'eau potable et le principe de recours à la délégation de services publics. Monsieur Bruno.
Donc ce soir, il nous appartient de faire un choix pour la distribution de l'eau potable. Aujourd'hui, nous sommes en délégation de services publics avec un contrat qui se termine en fin d'année. Pour nous aider à prendre la meilleure décision de rester en délégation de services publics, de passer en PJ, nous avons fait appel au bureau d'études qui est représenté ici par M. Zeny. Nous comptons sur lui pour nous éclairer du mieux possible. M. Zeny, je vous laisse la parole.
Technique, on va résoudre par Bonsoir à tous. Donc là, je vais vous présenter l'étude de la gestion parce que votre collectivité, à l'approche du terme du contrat qui porte sur la distribution de l'État, le contrat est signé avec la société ferroviaire en fin du 31 décembre 2021. À ce titre, votre collectivité donc, doit délibérer sur le vote des évolutions qui sera applicable à partir du 1er janvier 2022. Alors, au niveau de votre collectivité, donc, vous exercez la compétence eau potable sur l'ensemble de votre territoire avec quelques particularités. Donc, le transfert de la compétence eau potable et production d'eau brute avait été transféré à la commune des communes, qui est une communauté de Bretagne. Il y a une compétence partagée avec le CICOP, parce que votre collectivité a une compétence production d'eau brute et la distribution de l'eau potable, et le CITEP a pour mission de produire de l'eau potable à partir des achats d'eau au pas de la ville de Nantes. Ensuite, le CITEP remonte de l'eau aux délégataires qui en charge de distribuer l'eau sur l'ensemble de notre territoire. Le contrat actuel est signé avec la société des eaux de Melun, c'est le groupe Éolia, un contrat qui a été fait à partir du 1er janvier 2017 pour se terminer en 2021, donc un contrat de congé. Donc il y a 2 années qui ont été passés. Alors, les principales missions qui sont confiées aux concessionnaires aujourd'hui, c'est la gestion du service public de Bretagne, c'est l'exploitation de l'ensemble des ouvrages, notamment des forages de production d'eau brute, c'est la vente d'eau brute au CITEP, c'est la conduite des relations avec les usagers, c'est la facturation du gouvernement pour le droit de la collectivité et l'ensemble des redevances, c'est la fourniture à la collectivité d'informations à l'extérieur sur le fonctionnement technique, financier et juridique du service. En option, puisque dans le cadre de la consultation précédente, il y a plusieurs options qui ont été retenues par votre collectivité, avec la mise en place de la télé-relève des compteurs, la remise en marche, du forage F2 pour les besoins d'eau non potabilisés, et puis le diagnostic des forages F3 et F4. Les enjeux qu'on a identifiés sur l'eau potable sur le territoire sont les suivants, à savoir améliorer la connaissance du patrimoine, donc au travers d'une. Un SIG, un système d'information géographique, la mise en place du GIAO, une gestion maintenance assistée par un coordinateur, renforcer la gestion du patrimoine, sécuriser la production, mettre en place une exploitation sur performance, notamment avec des indicateurs très précis sur le nombre d'eau, sur la qualité d'eau, et tenir compte des projets futurs sur le territoire. Quelques caractéristiques techniques du service. Donc, au niveau des habitants des services, donc c'est 8746 habitants, c'est environ 2700 abonnés et des volumes qui sont produits et distribués à l'ensemble des usagers et non facturés, c'est une assiette de l'ordre de 430 000 mètres. Au niveau du patrimoine, on a 3 installations de production, dont 2 pour l'eau potable et 1 pour les besoins en eau non potabilisée, un réservoir d'une capacité de 2000 mètres cubes d'eau et les installations de traitement sont des compétences du site. Donc le réseau. Le service est complété par presque 63 km de canalisation, dont 48 km de canalisation et 14,6 km pour les branchements. Le nombre de branchements, c'est 2520 sur le territoire et les compteurs, 2848. Autre ouvrage, on a 109 poteaux et couches incendies et 3 bandes d'alerte. Quelques indicateurs de performance sur là. Donc, c'est des données qu'on a répertoriées donc, au travers de l'analyse des rapports d'activité de notre exploitant sur les exercices 2018 et 2019. En nombre de réseaux, on est sur 86,7% en 2018 et 87,1%. La disminution de perte de réseau, 1,13% en 2018 et 3,80% en 2019. Pardon. L'indice de connaissance de gestion patrimoniale, 84% en 2018 et 85% en 2019. Et en ce qui concerne le taux d'occurrence d'interruption du service, on a programmé 3,34% en 2018 et 1,11 en 2019. Globalement, on est plutôt sur un service avec de la performance de la part de nos exploitants. Sur les indicateurs de performance au niveau des analyses microbiologiques et des analyses physico-chimiques, hein, soit en 2018 ou 2019, l'ensemble des analyses réalisées par l'exploitant et par l'ARS, hein, donc l'ARS qui réalise des analyses réglementaires, sont de 100%. Donc aucune difficulté en ce qui concerne la qualité de l'eau sur notre permis. Le taux d'APD sur les données consommateurs, donc il est 2,27 en 2018, 1,94 en 2019. Donc ça c'est une donnée à surveiller, qui aura plutôt tendance à augmenter au cours des prochaines années. Taux de réclamation écrite pour 1000 abonnés, on est sur 0 en 2018 et 0 en 2019. Et le taux de respect pour la réalisation d'ouverture des branchements, il est de 100%, aussi bien en 2018 qu'en 2019. Donc globalement, on est plutôt sur un service de qualité géré par l'exploitant Veolia aujourd'hui. En ce qui concerne le prix du service, le prix du service sur la commune, il se situe donc à hauteur de 4,42 € sur une base 120 m3, TTC, donc, à savoir, donc là, c'est la présentation avec la part distribution potable, la part assainissement, les organismes publics, notamment au travers des redevances qui sont reversées à l'agence de l'eau, et la TVA. C'est un prix qui est tout à fait correct par rapport à des collectivités de votre taille et qu'on peut comparer à travers tous les départements et puis sur l'ensemble du territoire. Donc vous êtes plutôt sur un prix maîtrisé aujourd'hui du service public d'eau potable. Donc au niveau des modes de gestion, donc notre collectivité donc, elle a la possibilité selon différents modes de gestion, à savoir donc, soit on est dans le cadre d'une gestion déléguée, c'est le système qu'on connaît aujourd'hui au travers du contrat de délégation de service public qui est confié à la société d'Eolia. Soit on a la possibilité d'envisager une gestion directe, à savoir c'est votre collectivité, avec vos propres moyens humains et matériels, qui assure la responsabilité et la gestion du service. Et pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Soit une régie à autonomie financière, une régie à personnalité morale. La différence entre les deux structures, c'est que la régie à personnalité morale dispose d'un conseil d'administration qui prend les principales décisions, la politique d'investissement, la fixation des tarifs, alors que la régie à autonomie financière, c'est le conseil municipal qui donne les principales orientations. On a également la possibilité donc, de recourir à une société publique locale, mais ça suppose qu'on trouve un partenaire, une collectivité limitrophe qui serait prête à travailler avec notre collectivité. Sur ce point, on a considéré que ce n'était pas le souhait de notre collectivité, que c'est une possibilité qui a été prise. Entre la gestion directe et la gestion déléguée, on a la possibilité de recourir à une gestion hybride, à une gestion mixte, au travers d'une société d'économie mixte locale. Alors, ça suppose au moins 7 actionnaires, ce qui sera compliqué à trouver, notamment pour gérer les services publics de potable. Donc sur ce point, c'est plutôt un outil aujourd'hui qui est utilisé pour les opérations d'aménagement du territoire. Il y en a très peu donc, en ce qui concerne les services publics de potable. On en trouve un petit peu dans les langues. On peut également recourir à une société d'économie mixte unique, c'est la CEMOP, hein, qui nécessite à notre collectivité de trouver un partenaire privé dans le cadre d'une consultation. Donc on lance une procédure pour attribuer un contrat et en même temps on fait le choix d'un opérateur privé. Ce montage est utilisé lorsque la collectivité souhaite s'impliquer et prendre part au risque en ce qui concerne la gestion des investissements et puis la relation avec les usagers. La comparaison entre les différents modes de gestion, et notamment ce qui concerne la méthode d'analyse, donc, au niveau de la collectivité, on a identifié plusieurs enjeux, à savoir la transparence des coûts du service améliorés, les objectifs de performance optimisés avec la gestion des forages, le rendement des réseaux, une relation avec l'usager à faire évoluer, donc un accompagnement social à développer, la visibilité de la collectivité auprès de l'usager à renforcer, un niveau de service et bien garantir, donc sur le niveau de service rendu aux usagers, l'accueil, la gestion des flux, pour un coût optimisé, parce que c'est un élément qui est important, une politique de gestion patrimoniale optimisée dans la durée. Une gouvernance du service assurée par la collectivité, avec un suivi continu de la gestion du service, afin de déterminer des marges de manœuvre sur la tarification du service. Donc on voit bien ici que c'est l'usager qui est au cœur du service, un service maîtrisé par la collectivité. Et pour ce faire, on a la possibilité donc, de gérer ce service, soit dans le cadre d'une délégation de service public, à côté on continue le mode de gestion actuel, soit on reprend le service en régie. Alors, ces deux modes de gestion ont été analysés au travers d'une grille d'analyse, un multicritère, avec cinq critères et des sous-critères, donc la maîtrise du service, la relation de l'usager, la transparence et suivi, l'évolution du tarif, la maîtrise des investissements, l'évolution du périmètre. La répartition des risques, le risque juridique, le risque de travaux, le risque lié à l'exploitation. Un critère technique et des compétences, avec les compétences, la disponibilité des compétences au sein de la collectivité, la taille critique, la capacité d'intervention en astreinte, la garantie de résultats, la protection de l'environnement. Un critère organisation et ressources humaines, complexité de la gestion pour la personne publique, la reprise du personnel actuel, et la gestion du personnel. Et enfin, il y a un critère qui est important, c'est l'impact fiscal, c'est le coût de transition, c'est le coût de l'investissement, puis c'est l'estimation du prix global. Donc on a repris l'ensemble de ces critères, et il en résulte la notation suivante. Alors dans le cadre de la consultation, il y a un rapport très détaillé que vous avez été remis, et qui reprend l'ensemble de ces critères. Il résulte, en ce qui concerne la maîtrise du service, que finalement, c'est la régie hein, qui offre le plus d'avantages à notre collectivité. Il est vrai que l'information sera maîtrisée, la politique des investissements également. Une meilleure compréhension aussi hein, sur les coûts qui sont présentés notamment au travers de la comptabilité publique, qui est beaucoup plus transparente que les comptes présentés par les exploitants privés. Par contre, en ce qui concerne le deuxième critère, c'est plutôt donc, la répartition des risques, c'est plutôt la DSP, la délégation de publique, qui offre le plus d'avantages, notamment puisque si dans le cas d'une délégation de publique, l'ensemble des risques sont transférés à l'opérateur privé, alors que dans le cas d'une régie, c'est vous, élu, service, qui assumez la totalité des risques. Technique et compétences, sur ce critère également, la délégation de services publics offre plus d'avantages qu'une régie. Il est vrai qu'on pourra bénéficier au travers d'un délégataire, d'une mutualisation de ses moyens, bénéficier d'économies d'échelle, une gestion beaucoup plus efficace en ce qui concerne les astreintes, alors que dans le cas d'une régie, au niveau du personnel qu'il faudrait mettre en place, on s'est rendu compte que le personnel sera quasiment en astreinte 7 jours sur 7, ce qui n'est pas possible. Donc là, on serait obligé de recourir à un marché public pour les astreintes, ce qui aurait un effet de surenchérir le coût du service. Organisation et RH, dans le cas d'une délégation de service public, c'est également beaucoup plus favorable à notre collectivité, puisqu'on n'aura pas de personnel à gérer, sachant que dans le cadre d'une régie, contrairement à ce qu'on peut penser, le personnel, c'est du personnel de droit privé. Donc il y aura une coexistence entre du personnel de droit privé et le personnel actuel au niveau des services techniques de la collectivité, ce qui ne serait pas facile à gérer. Et le critère économique, sur ce critère, on s'est rendu compte que dans le cadre d'une délégation de service public, le coût du service serait moins onéreux que dans le cadre d'une régie. C'est environ 800 000 euros dans le cadre d'une délégation de service public, contre 870 000 à 880 000 euros dans le cadre d'une régie. La régie est pénalisée par le fait qu'un opérateur privé, donc dans le cadre d'une délégation de service public, peut bénéficier de tarifs intéressants donc au niveau national dans le cadre d'accords cadres, notamment pour tout ce qui concerne les approvisionnements, ce qui ne sera pas le cas pour une régie. Les investissements qui seront nécessaires à mettre en place la régie, puisque si on met en place une régie, ça nécessite de se doter de locaux, du matériel informatique, de bâtiments. Et sur ce point, et puis, un point qu'on a souvent tendance à oublier dans le cadre de la mise en place d'une régie, c'est qu'entre le moment où on met en place la régie, à savoir le 1er janvier 2022, et les premières recettes qu'on va toucher, c'est environ 9 à 10 mois. Ce qui veut dire, par contre, qu'il va assumer les dépenses d'énergie électrique, les charges de personnel, etc. Donc, l'ouverture d'une ligne de trésorerie qui va coûter également cher à notre collectivité. Donc, sur ce point, lorsqu'on regarde l'ensemble des critères, on se rend compte finalement que c'est la délégation de service public qui répond le mieux aux enjeux et aux attentes de notre collectivité. Alors, par rapport à l'état des lieux et les orientations qui en découlent, c'est ce que je viens de dire, la mise en place d'une régie présente certains inconvénients, donc un délai de mise en œuvre qui est contraint. Alors, d'un point de vue purement administratif, mettre en place une régie, c'est relativement simple, on délibère en statut sur le règlement intérieur. Par contre, c'est d'un point de vue opérationnel, pour la rendre effective au 1er janvier 2022, ce serait compliqué pour notre collectivité. Retrouver des locaux, recruter du personnel, passer des marchés, et ça nécessite un certain délai. Généralement, pour la rendre opérationnelle une régie, c'est au moins 18 mois. La régie, c'est également ce que j'ai déjà précisé, c'est appelé en responsabilité de la collectivité, alors que dans le cas du DSP, l'ensemble des risques sont portés sur les autres privés, la responsabilité civile, pénale, les enjeux sanitaires et environnementaux, risques financiers, puis les risques sociaux, qui seraient portés par la collectivité si on était en régie. Donc, il est donc proposé de relancer le procédure de DSP pour les raisons suivantes, transfert de risque, qualité de performance, notamment dans la continuité du service, et puis la négociation, puisque dans le cas de l'ordonnance et le décret de concession, on ne pourra discuter avec les candidats. Alors que si on est dans le cadre d'une régie et qu'on passe des marchés, la phase négociation n'existe pas. Le cadre du futur contrat, donc, c'est juste un peu l'objet du contrat, c'est la gestion du service public d'eau potable. Donc, eau brute, distribution, gestion clientèle, régime des responsabilités. Il faudra rappeler à l'effort, c'est que le concessionnaire devra assumer et gérer le service à ses risques opérés. La durée du contrat, il est proposé 6 ans, donc avec un début le 1er janvier 2022. Les obligations contractuelles, donc on a une obligation de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des ouvrages, le contrôle des performances, une gestion patrimoniale optimisée, avec la gestion du parc compteur, le rendement des réseaux, la réalisation des branchements, les délais d'intervention, le diagnostic, les études, sécurisation des ouvrages, une politique renforcée de renouvellement et des équipes. Pénalisé, en cas de non-respect des obligations, le contrat prévoit un certain dispositif qui permettra de sanctionner, en cas de non-respect des indicateurs et des engagements contractuels signés par le futur concessionnaire. Gestion au risque et péril, comme je l'ai déjà précisé, le futur concessionnaire devra assumer l'ensemble des risques d'exploitation. Sa rémunération, elle va se retrouver directement auprès des abonnés et pourra percevoir donc une juste rémunération qui constitue l'équilibre financier au regard du cahier des charges qui est assigné. Voilà ce que je peux vous dire en résumé synthétique de calendrier, excusez-moi, calendrier. Donc, en ce qui concerne la délibération sur le mode de gestion, c'est aujourd'hui, le 25 janvier. Donc, rédaction de la concession, c'est en cours de rédaction. Le DCE, il est en cours de rédaction, donc on a eu plusieurs réunions de travail, donc il va se faire entre novembre et mars 2021. On devrait publier chez la ville de concession en février 2021 avec une réception des candidatures mi-mars 2021. L'analyse des candidatures devrait se faire entre mi-mars 2021 et avril 2021. À ce titre, donc, il faudra réunir la commission de DSP et je crois que vous devez prendre des délibérations pour la mettre en place. La loi du DCE, donc le DCE, c'est aussi consultation des entreprises, c'est prévu début avril 2021. Réception des offres, mi-mai 2021. L'analyse des offres, ça va se faire entre mi-mai et mi-juin 2021. Et on devrait commencer les négociations entre mi-juin pour se terminer en septembre 2021. L'objectif, c'est de délibérer sur le choix du concessionnaire avec le conseil du mois d'octobre 2021, de sorte à pouvoir bénéficier d'une période de tuilage de 6 semaines entre mi-novembre et le 31 décembre 2021 en cas de changement d'opérateur. Et même s'il y a une continuité avec l'opérateur actuel, c'est un nouveau contrat, donc il faudra prévoir une phase de transition pour le mettre en place. Voilà ce que je peux vous dire d'une manière très synthétique sur les différentes options qui s'offrent à notre collectivité. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Donc le principe de recours à la délégation de service public pour l'eau potable. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Merci Monsieur Zini pour cette présentation complète.
Je vais m'échapper, puis vous souhaitez bonne soirée à tous.
Merci.
Et à très bientôt.
Bonne soirée à vous. Alors, le point suivant concerne donc les conditions de constitution de la DSP pour la gestion du service d'eau potable et d'assainissement. Donc, cette commission comporte donc, outre Madame le maire, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Et je déléguerai la présidence à un élu. Elle doit être donc élue par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Vous avez donc la délibération. Est-ce qu'il y a des questions ?
Dans la délibération, il faut peut-être écrire Madame le maire plutôt que Monsieur le maire.
Ah oui, exact. Article 2. Deuxième tiret. Merci pour cet œil vigilant. Alors, qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, nous allons maintenant passer à la désignation des membres de cette commission. Madame Lagoutte, donc je vous propose, puisqu'il y a donc 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc il y en aura 3 pour la liste, 3 titulaires pour la liste Agir Ensemble pour Nanchy, un pour la vôtre et Monsieur Durox. Je ne vois pas Monsieur Durox, voilà. Et membres suppléants, donc un membre pour la liste, votre liste, Madame Lagoutte. Donc si vous. Alors je vous propose de ne pas procéder par un vote à bulletin secret, mais de désigner directement les membres si vous en êtes d'accord. Alors, Madame Lagoutte, vous nous proposez en titulaire Monsieur Tchikaya.
Et moi-même en suppléant.
Et donc Monsieur Durox en titulaire ?
Je vous crois.
Pardon ?
Oui, il n'y a pas de problème. Quelle est l'occurrence des réunions de cette commission ?
Monsieur Bruno.
Alors, ça va être de choisir
Pardon ? À quelle fréquence, pardon ?
Trois fois, c'est aléatoire.
Oui, c'est trois fois dans l'année, quoi. Oui,
non, c'est même pas. Là, cette année, parce que.
Oui, cette année, non, mais sinon, dans l'année, peut-être 3 réunions dans l'année ?
Oui. très peu.
Bah si.
Oui, c'est très peu.
Ah oui.
C'est très très peu.
D'accord, c'est pas souvent.
Oui, après.
Alors, donc, je vous fais un récapitulatif des membres. Donc, je serai moi-même représentée par M. Pouneau. Et en membre titulaire, nous vous proposons donc Mme Stéphanie Chute, M. Serge Amin, M. Fabrice Houllier, M. Guy Bertrand Tchikaya et M. Émeric Durox. En membre suppléant, M. Alban Lancel, M. Jules Armand Nouga, Mme Angélique Rapaille, M. Mahmoud Gunner et Mme Clotilde Lagoutte. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc nous passons au point suivant qui concerne la motion de l'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne au sujet donc de la compétence eau et assainissement. Puisque la prise de compétence eau et assainissement par les EPCI a compté au plus tard le 1er janvier 2026 risque pour la communauté de communes de la Brinanchicienne comme pour d'autres de provoquer une charge financière importante pour mettre en œuvre les investissements nécessaires à la création et à l'entretien des réseaux sur l'ensemble du territoire. Le prix de l'eau étant évidemment en corrélation avec les charges supportées, une augmentation des tarifs est à craindre. Dans ce contexte, il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer afin de prendre part à la motion de l'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne. Donc, je vais vous épargner la lecture de la motion complète. Vous l'avez dans votre dossier. Elle a été également votée en Conseil communautaire jeudi soir. Et je vous propose, après le vote de cette délibération, si vous en êtes d'accord, de relayer la motion sur les réseaux sociaux et la pétition de l'Association des maires ruraux pour soutenir la motion. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette délibération ? S'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne la signature d'une convention avec l'association Initiative 77 pour la mise en place de chantiers d'initiative locale pour l'année 2021. Monsieur Hamelin, je vous laisse la parole.
Bonsoir à tous. Cette délibération donc a pour objet la signature d'une convention avec Initiative 77 pour la mise en place de chantiers d'initiative locale. L'État et le département de Seine-et-Marne ont convenu de se mobiliser ensemble dans le cadre de la loi généralisant le revenu de solidarité active, plus communément appelé le RSA, et réformant les politiques d'insertion de lutter contre l'exclusion professionnelle en favorisant l'accès à l'emploi des publics en difficulté d'insertion et plus particulièrement ceux bénéficiant des minima sociaux. Ils ont comme objectif de réaliser des travaux utiles à la collectivité tout en faisant progresser professionnellement les travailleurs d'Initiative 77. Dans ce cadre, la commune a sollicité Initiative 77 pour mettre en place des chantiers d'initiative locale. Donc ces travaux sont essentiellement des travaux d'assemblée, de réflexion, département par exemple, de locaux, et puis aussi des travaux concernant les espaces. Comment ?
Près du micro peut-être.
Ces travaux sont surtout des travaux liés au BTP. Protection d'appartements, de locaux de la commune et également des espaces.
Je désirais savoir si les travaux qu'il y a eu au service jeunesse ont été justement faits par.
Oui.
Par convention d'initiative,
oui.
C'est ça ?
Oui, oui.
Les
travaux de peinture au service jeunesse. Des travaux de défrichage également, place
Martin Luther King,
merci, et avenue du Tailly, et d'autres chantiers à venir aussi. Voilà.
Je vous remercie.
Je vous en prie. Le but, c'est aussi de donner une visibilité aux chantiers d'insertion. C'est l'occasion d'en parler, et d'expliquer tout l'intérêt d'une association comme Initiative 77 pour remettre à l'emploi les gens qui en sont très éloignés. Voilà, et ça permet d'avoir, ce type d'initiative sur place, ce qui évite aussi, ce qui peut éviter des frais de déplacement aux Nangiciens qui pourraient rentrer dans ces dispositifs d'insertion. Voilà. Et donc là, on est sur une convention générale et nous espérons multiplier les chantiers au cours de l'année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne donc la fin du balayage mécanique au sein de la convention de gestion de services pour l'exercice de la compétence entretien des zones industrielles et commerciales. Oui, c'est vous, monsieur Lancel.
Merci, madame le maire. Je vais essayer d'être un peu plus audible. Bonjour à tous.
Surtout pour faciliter le travail de nos agents et donc les délais de
réalisation. Comme vous voyez à l'écran, en fait, on a un balayage mécanique qui est exécuté par une entreprise actuellement. Et au sein de la convention qui nous lie avec la communauté de communes, nous avons découvert que le montant de rétribution de la communauté de communes par heure était de 30 euros. Là, nous, ça nous coûte, hein, puisque c'est Nangis qui paye la note finale, 122,50 euros de l'heure. Donc nous souhaitons mettre fin à cette différence de coût qui n'est pas aujourd'hui justifiée, et nous n'hésiterons pas, dans les jours qui viennent, à proposer à la communauté de communes de rétablir un tarif un peu plus cohérent avec la valorisation, sachant que ce prix n'était pas totalement d'innocence, puisque c'était à l'époque où nous avions une balayeuse qui fonctionnait à Nangis, qui a été remise en fonction aujourd'hui de normalement. Et comme elle est en panne assez fréquemment, nous avons effectivement un prestataire qui nous facture son prix de journée de manière normale. Voilà. Avez-vous des questions sur ce souhait de fin d'entretien de balayage mécanique ? Bien sûr.
Madame le maire, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors cette délibération nous interpelle à deux titres, sur la forme d'abord, sur le fond ensuite. Déjà sur la forme, le projet de délibération premièrement vise le programme proposé par le conseil départemental pour l'amélioration de la sécurité routière. Or ce programme concerne essentiellement la sensibilisation des collégiens d'une part et d'autre part la praticabilité de cette axe routier à travers son dispositif de viabilité hivernale. En aucun cas, sauf erreur, il ne s'applique aux axes communaux ou intercommunaux, dont l'entretien et la sécurisation restent de l'entière compétence des collectivités concernées. Deuxièmement, considère unilatéralement le souhait de mettre fin à la convention numéro 2018-STPG-108 sans indiquer avec qui et les motifs pour lesquels cette convention a été conclue. Ensuite, sur le fond. Pour rappel, et je vais faire court, c'est à l'occasion de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, puis de la loi NOTRe du 7 août 2015, que les communautés de communes se sont vues transférer la compétence zone d'activité. Les recettes fiscales liées aux entreprises deviennent recettes communautaires à charge pour elles. Après un calcul figé, on ne déroge pas, de reverser aux communes concernées les recettes fiscales dont elles sont privées au moyen d'une attribution de compensation. Dans le même temps, et pour inciter les communautés de communes à bénéficier d'une DGF plus conséquente, celle-ci était fortement incitée à mutualiser les dépenses et donc les prestations de services de ces communes membres, le tout encadré par un schéma de mutualisation. Dans ce cadre, la commune de Nangis a mis à disposition de la CCBN et de ses communes membres, et à hauteur de 49%, la directrice de son service urbanique. Et toujours dans ce cadre de mutualisation, et compte tenu premièrement de l'absence de moyens humains au sein de la CC, deuxièmement, et du fait surtout que la voirie Saint-Antoine est en partie communale, puisque desservant la zone pavillonnaire du même nom, il a été procédé à la conclusion de la convention dont vous voulez annuler partiellement ses effets. Je vous rappelle aussi que cet ensemble de transferts et de conventions sur ZAE a été acté par la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEP, qui est un organe intercommunal. Enfin, on vous rappelle également qu'au terme de l'article 6 de la convention, il est notamment précisé qu'elle pourra être modifiée par voie d'avenant, acceptée par les deux parties. Ensuite, il est question de dénonciation, mais sans préciser si elle peut être totale ou partielle. Donc en conclusion, nous trouvons regrettable qu'aucune concertation n'ait pu avoir lieu avec la communauté de communes, qu'aucun terrain d'entente n'ait été tenté. Il ne faut pas oublier que s'il revient à la communauté de communes de procéder au balayage des voiries des ZLA, il reviendra de toute façon à la commune de lui rembourser sa participation pour la seule rue des Eaux des Pins.
Merci. Merci Madame Galuchy. Alors, je vais répondre brièvement, surtout sur la fin. Concertation, il y a eu avec le vice-président chargé des finances, qui comprend parfaitement notre position. Second point, il est prévu par la communauté de communes une recherche d'un partenaire global pour l'ensemble des communes de la communauté de communes de la Brie-Longiciel pour avoir un système de balayage commun. Donc on ne fait pas les choses sans prendre de gants avec la communauté de communes, au contraire, puisqu'on est partenaire, on est des partenaires majeurs de cette communauté de communes. Il n'y a pas d'opposition aujourd'hui à ce qu'on puisse aller dans ce sens-là, puisque, encore une fois, tout ce qui a été pris au niveau des financements, au niveau de ce qui a été inscrit, c'était lié à l'époque où nous étions équipés. Là, aujourd'hui, la remise en cause est liée au fait que nous payons une heure de balayage mécanique 122 euros, là où la rétribution de la communauté de communes, qui était à l'époque 100%, puisque nous participons aussi aux 30 euros, complétait, ou du moins compensait. Il y a eu un changement parce que nous étions en panne, ce qui peut parfaitement arriver. Si c'est temporaire, c'est une chose, sauf qu'aujourd'hui, on était dans une situation où économiquement, nous facturions, nous payions 122 euros quand on refacturait que 30 euros. Donc, le président de la commune est au fait de la situation. Aujourd'hui, ils sont en quête de trouver un système pour l'ensemble des villes. Donc, je ne vois pas où est le problème, si ce n'est de faire économiser un peu d'argent aux logiciels. Avez-vous d'autres questions ?
Qui s'oppose à cette délibération ? S'abstient. Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne donc les tarifications d'intervention pour les services techniques. Madame Schutz, je vous laisse la parole.
Merci, Madame Le Maire. Allô. Certaines sociétés intervenant sur le domaine public demandent la mise en place et le retrait des barrières sur des emplacements qu'elles ont réservés pour faire leurs travaux. Le plus souvent, ce sont des sociétés qui viennent d'autres régions et qui ne peuvent venir les poser elles-mêmes. Les agents des services techniques interviennent donc pour l'installation de ces barrières ainsi que leur évacuation après leur départ. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette demande, c'est-à-dire la mise en place et retrait des barrières et la pose de l'arrêté pour un forfait de 40 euros et de 5 euros le prêt de barrière par jour. Toute détérioration et perte de matériel loué seront à la charge du pétitionnaire sur le tarif d'une barrière neuve de 50 euros. Nous avons décidé de présenter cette délibération parce que nos agents au service technique sont très peu nombreux sur le terrain. Et nous avons de plus en plus de demandes d'arrêtés et donc de réservations d'emplacement. Et ça nous occasionne une perte de temps sur l'intervention au niveau de la voirie, espace vert, etc. Donc c'est pour forcer un peu les sociétés à faire elles-mêmes cette pose de barrière pour réserver leur emplacement. Auquel cas, si ce n'est pas possible pour eux, ils auraient à payer un forfait de 40 euros si vous en êtes d'accord, bien sûr.
Oui, madame Lagoutte.
Madame le maire, alors
Alors, Madame Schutt nous a présenté cette délibération et elle nous parle de société. Et dans la délibération, il n'y a pas que les sociétés. Il y a les comités d'entreprise et les associations. Donc, Madame le maire, j'ai plusieurs questions à vous poser. Concernant, bien entendu, et surtout les associations. Je voudrais savoir si, pour les associations, par exemple, telles que l'Harmonie, qui fait des apéro-concerts, ou des associations sportives qui organisent eux-mêmes leur événement et qui ont besoin de barrières, est-ce que là, vous allez facturer à ces associations le montage, le démontage des barrières et le prix de la barrière ? C'est une question importante. Puisque
alors, vous avez raison de nous le faire remarquer, c'est une erreur de la délibération, ça n'est pas dans la notice. Dans la notice, il s'agit bien des sociétés. Et le but, c'est bien d'appliquer cela aux sociétés et certainement pas aux associations locales.
D'accord. Et pour les particuliers, oui, par contre, il y a marqué association. Alors,
comité d'entreprise, association. Les particuliers, ça dépend. Si c'est le particulier qui a besoin de refaire son ravalement, qui a besoin de. Et donc qui bloque. Voilà, dans ce cas-là, c'est à partir du moment où il faut que les agents viennent, c'est un travail qui.
Voilà. Et pour les associations, on est d'accord pour les associations du territoire
oui.
qui font du
petit. Comité d'entreprise, association, on l'enlève.
Le comité d'entreprise aussi, on l'enlève du coup.
C'est généralement pour une manifestation festive, c'est pas forcément pour des travaux. Là, c'est essentiellement.
Ah, Madame Schutt, excusez-moi. Merci.
En fait, cette délibération concerne surtout les sociétés qui font des demandes d'arrêter, alors soit d'occupation de sol pour des échafaudages ou ce genre de choses, ou stationner un véhicule, une benne, etc. pour des travaux. C'est vraiment par rapport à l'occupation du sol. Et donc, les barrières sont là pour réserver l'emplacement en attendant que les sociétés arrivent.
J'ai tout à fait bien compris. Donc du coup, si vraiment ça s'adresse aux sociétés, faisons une délibération seulement pour les sociétés dans un premier temps. Et voyons s'il y a des abus peut-être pour les associations et les particuliers.
Oui, c'est pour ça qu'elle va être corrigée.
Oui, oui. Hein, on enlève comité d'entreprise et, associations, on enlève.
D'accord.
Les particuliers, donc, les particuliers on peut laisser typiquement, je demande à faire mettre des barrières parce que j'attends la benne qui va arriver, mais c'est le particulier directement qui le demande. Donc dans ce cas-là,
ça passe avant de facturer les particuliers. Ouais. Il y a beaucoup d'abus sur les particuliers ?
Non, c'est essentiellement les sociétés.
Ouais, je pense qu'on peut, pour les particuliers, s'il n'y a pas d'abus. Après, si c'est sûr qu'ils demandent 50 mètres de barrière, ou là, on peut se poser la question, mais bon.
Madame Schutt.
Je pense que pour les associations, les particuliers, on peut peut-être voir dans l'année ou faire une petite statistique sur l'année 2021 et puis en reparler pour l'année prochaine. Ouais.
Donc on ne laisse on ne laisse que pour les activités commerciales.
Oui, je vous remercie.
Donc je mets au vote la délibération. Donc je vous redis la phrase pour qu'on soit sur l'article 1er. Le Conseil municipal décide donc qu'à partir du 1er mars 2021, les tarifs applicables pour les fournitures de matériel communal pour les activités commerciales, pour la mise en place et le retrait de barrières par les agents de services techniques sont fixés à 40 € de forfait et 5 € par barrière et par jour.
Alors, pour les activités commerciales et travaux.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, nous allons passer aux délibérations qui concernent le commerce et l'artisanat. Madame Martinet, ta première délibération concerne la modification de la délibération portant sur les demandes de dérogation au repos dominical pour l'année 2021.
Bonsoir. Effectivement, alors nous avions déjà une délibération. C'est une correction de la délibération que nous avons faite au mois d'octobre. La liste des dimanches pour 2021 avait été arrêté donc le 11 décembre 2020 pour 10 dimanches, les 3 et 10 janvier, les 4 et 10 juillet, 29 août, 5 septembre, 21 et 28 novembre, 5 décembre et 19 décembre,
Après avis favorable du conseil municipal en date du 21 septembre et du conseil communautaire en date du 19 novembre. Par courrier reçu le 16 octobre 2020, le magasin Carrefour Market demande la modification suivante, remplacer le dimanche 5 septembre 2021 par le dimanche 26 décembre 2021. Ces dates n'interférant pas avec celles sollicitées par l'autre enseigne demandeuse, Chausse Expo, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur cette modification, à savoir remplacer le 5 septembre par le 26 décembre.
Merci Madame Martinet. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne donc le rapport d'activité du délégataire du marché Géraud et Associés. Madame Martinet.
Oui. Alors, la commune a reçu par courrier le 28 décembre dernier le rapport annuel d'activité 2019 relatif au marché public d'approvisionnement de Mangis de la SAS Géraud et Associés, délégataire du marché public d'Affermage depuis le 16 juin 2017. Celui-ci se décline en 8 chapitres. Le groupe Géraud, les marchés, qualité du service, juridique et financier, ainsi que 4 annexes, abonnés, répartition par activité, bilan, animation, tarifs, attestation d'assurance. Au 31 décembre 2019, 15 commerçants étaient abonnés pour 15 abonnés également en 2018. Les recettes de l'exercice s'élèvent à 39 828,59 € pour un montant de dépenses de 48 991,55 €. Ce qui représente un résultat en déficit de 9 160,96 €. La redevance versée à la commune s'élève à 1 000 € sans versement de redevance complémentaire, le seuil de recette le permettant, 53 769,29 € n'ayant pas été atteint. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du rapport annuel qui sera mis à la disposition du public.
Merci Madame Martin. C'est donc une prise d'acte, on vote pour elle. Donc, qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, qui était originellement prévue, a donc été soustraite de l'ordre du jour suite à la commission qui s'est réunie mercredi dernier. Une réunion de travail est prévue avec le délégataire. Je tiens à, le 10 février, puisqu'il était question d'augmentation des tarifs, mais on s'est aperçu que la redevance qui devait être versée par le délégataire n'a pas été titrée sur l'année 2019. Donc, on est en cause de certaines choses, il va y avoir des discussions avec le délégataire. Et c'est donc pour cette raison que la délibération a été soustraite de l'ordre du jour et qu'elle sera remise évidemment après réunion avec les commerçants du marché et le délégataire. Le point suivant concerne donc l'approbation de la modification de PLU. Madame Housset.
Alors, c'est une opération dont on a déjà parlé, puisqu'on a délibéré sur la concertation nécessaire. Vous m'entendez ? Il faut que je me mette en face du micro. Donc, cette délibération, elle porte sur une approbation de la modification simplifiée du PLU suite à une erreur matérielle. Pour rappel, pour mémoire, cette modification est engagée fin 2019, puisqu'on avait une erreur de zonage. Une parcelle qui appartenait à la société Le Safre était classée en zone UE, zone dédiée aux équipements publics. Donc, l'objet de cette délibération, ce sera de modifier ce zonage pour passer en zone UXS, zone à vocation d'activité économique. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est important de faire une concertation auprès des personnes publiques associées. Donc, la commune avait reçu un avis favorable de la DDT, de la commune de Rampillon, du département de Seine-et-Marne, de la commune de Chantenay, de la CCI, de la Chambre d'agriculture, par délibération du 21 septembre 2020. il fallait délibérer sur les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifié par une mise à disposition du public qui a été réalisée du 5 octobre au 5 novembre et l'ouverture d'un registre. Donc ce qui est important pour nous, c'est le bilan de la mise à disposition du public. Donc la presse, une annonce a été passée dans la presse pour faire la publicité de cette opération. L'avis de mise à disposition du public a été affiché le 28 septembre, à compter du 28 septembre. Et puis un registre, comme je l'indiquais précédemment, a été aussi mis à disposition du public et aucune remarque n'a été consignée dans ce registre ou reçue même par courrier. Donc je vous ai proposé, considérant la notification aux personnes publiques associées et leur retour, le bilan de la mise à disposition du public tel que je vous l'ai décrite, d'approuver ce bilan de mise à disposition du public et puis approuver le projet de modification simplifiée du PLU d'énergie tel qu'il est annexé donc, dans la présente délibération et donner tout pouvoir à Madame le maire pour l'exécution de la présente délibération. Merci.
Merci Madame Mousset. Merci Madame Mousset. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, il s'agit donc de la modification de la composition du conseil d'administration du CCAS. Madame Gallois.
Alors, par délibération en date du 16 juillet 2020, le conseil municipal a déterminé le nombre de sièges au conseil d'administration du CCAS, ainsi que la répartition des 6 sièges attribués aux personnes dites qualifiées. Suite à la démission d'un administrateur en date du 10 décembre 2020, représentant une association qui œuvre dans le domaine de l'insertion et la lutte contre les exclusions, la dite association a informé la commune qu'elle ne présenterait pas un nouvel administrateur. Afin de pourvoir ce siège vacant et de permettre à l'administrateur démissionnaire de continuer à siéger au sein du CCAS, il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération en date du 16 juillet comme suit. Fixe à 6 le nombre de sièges personnes qualifiées au sein du conseil d'administration du CCAS selon la répartition suivante. 3 sièges pour des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, ou toute personne qualifiée. 1 siège pour une association familiale désignée sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, ou toute personne qualifiée. 1 siège pour une association de retraités et de personnes âgées, ou toute personne qualifiée. 1 siège pour une association de personnes handicapées ou toute personne qualifiée. La personne démissionnaire a fait 15 années de bénévolat pour cette association et nous considérons qu'elle peut continuer donc à faire partie de l'administration du CCAS.
Merci Madame
Gaillon.
Oui,
Oui, Madame le maire, je voulais juste apporter quelques précisions sur la notice explicative et vous proposer une toute petite correction. Aujourd'hui, j'aime bien les petites corrections. Alors, en effet, l'ancienne direction des restaurants du cœur avait commis une erreur en orientant une de leurs bénévoles en tant qu'administrateur, puisque cette représentation, en fait, elle n'est pas autorisée par les statuts des restaurants du cœur, plus particulièrement. Puisque dans leur statut propre, les bénévoles ne peuvent pas être administrateurs au sein des CCAS. Ça, c'est leur propre fonctionnement. Donc, il me semble que c'est pour cela, en effet, que vous proposez de rajouter « ou toute personne qualifiée » pour permettre d'ouvrir et peut-être connaître ces 15 années de bénévolat dont a parlé Mme Gallois. Cependant, je vous propose peut-être de finir votre proposition en rajoutant par défaut. donc pour toute personne qualifiée par défaut, ce qui permet comme ça de permettre aux associations d'être prioritaires sur les sièges, s'ils le peuvent dans leur statut, et vraiment finir par toute personne qualifiée à la fin, une fois que l'appel à candidature a été fait, etc. Ce qui permet de se prémunir, de ne pas écarter des associations dans un premier temps. Voilà, c'est une petite modification que je vous propose d'apporter. Ou toute personne qualifiée par défaut, s'il n'y a pas assez d'associations qui se présentent.
Alors écoutez, je ne vais pas retenir votre proposition pour la raison suivante. Il s'agit là exactement de la même formulation pour enfin, que les autres lignes. Or, c'est bien dans cet esprit-là que les membres du CCAS ont été désignés. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est agi de les désigner, ce sont bien les associations familiales qui ont été interrogées. Elles n'avaient personne à désigner, donc on a fait autrement. Pour les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion, donc les associations implantées sur Nangy, les Restos du Cœur et le Secours Populaire avaient été sollicitées. Donc elles avaient toutes les deux fourni des bénévoles. Bon, il s'avère qu'effectivement, dans les statuts des Restos du Cœur, ce n'est pas possible. Donc, c'est bien comme ça que... Enfin, voilà, on est d'accord sur le fonctionnement. Il ne s'agit absolument pas de chercher à exclure qui que ce soit. Et dans l'ordre de la phrase, voilà, c'est d'abord priorité aux associations, qu'elles soient familiales, d'insertion, de retraités, de personnes handicapées. Et dans le cas où il n'y ait pas de candidat par les associations, alors ce sera une personne qualifiée.
Donc c'est vrai que voilà. Vous avez raison, Madame le maire, on pourrait le mettre par défaut sur chaque ligne. Voilà.
Bon. Mais non, parce que c'est pas utile en fait. C'est d'abord la première préposition ou. Voilà.
Merci de.
Donc on est bien d'accord sur le mode de fonctionnement.
Je peux plus intervenir, Madame le maire, s'il vous plaît.
Je vous en prie, Madame Gavouche.
Par contre, dans la délibération, dans le code de la délibération, on pourrait vraiment modifier les procédures. Il est mentionné que l'association n'a pas souhaité présenter à la commune, c'est pas qu'elle n'a pas souhaité, mais c'est qu'elle ne peut pas présenter. Donc je voudrais vraiment retirer ce terme.
C'est corrigé. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne la mise en place du dispositif des études surveillées dans les écoles élémentaires de Nangy. Et je vais laisser la parole à Madame Lyon sur ce sujet.
Dispositif, études surveillées dans les écoles élémentaires de la commune de Nangy. La municipalité souhaite mettre en place un dispositif d'études surveillées dans les écoles élémentaires de la commune à compter de l'année 2021 afin de répondre à une demande des parents. Un sondage auprès des familles a été effectué auquel 59% des parents ont répondu, toutes écoles élémentaires confondues, et il en résulte un taux de 58% de réponses positives quant à l'intérêt pour ce dispositif. À l'issue du sondage, divers critères ont permis de désigner l'école des Roches pour la période du 8 mars 2021 au 6 juillet 2021. Taux de réponse des familles, nombre d'enseignants volontaires, accueil de loisirs dans les locaux. Phase d'expérimentation avant la généralisation à toutes les écoles élémentaires à compter de septembre 2021. Deux réunions de travail ont eu lieu auxquelles toutes les écoles élémentaires de la commune étaient représentées
et plusieurs enseignants se sont portés volontaires pour encadrer ce temps d'études. Elles s'adresseront à tous les élèves du CP au CM2 durant la période scolaire et devront permettre aux élèves accueillis de faire leurs devoirs et d'apprendre leurs leçons dans le calme, sous la surveillance de l'adulte encadrant. Les élèves pourront solliciter l'encadrant pour des conseils ou des corrections. Toutefois, il n'est pas possible de garantir que tout le travail demandé aux enfants par leur enseignant soit effectué et vérifié durant ce temps d'études. Elles auront lieu le lundi, mardi et jeudi soir dans les locaux scolaires, seront encadrées par des enseignants volontaires et se dérouleront comme suit. De 16h30 à 17h, temps récréatif avec goûter fourni par la commune et distribué par les enseignants. De 17h à 18h, études surveillées. Aucune sortie ne sera possible avant 18h. À l'issue de ce temps d'études surveillées, les enfants pourront aller à l'accueil post-scolaire sous réserve qu'ils soient inscrits ou être remis par l'encadrant à ses parents ou une autre personne désignée ou rentrer à leur domicile sous réserve que la famille ait donné une autorisation écrite. Les inscriptions pourront être faites via l'espace citoyen ou au guichet unique du service éducation en indiquant les jours souhaités, un jour, deux jours ou trois jours. Inscription à l'année ou au mois ou deux semaines au plus tard avant la date de début de la période souhaitée par la famille. Si l'enfant n'est pas déjà inscrit à la restauration scolaire et aux accueils de loisirs, un dossier devra être rempli par la famille et déposé, accompagné des pièces demandées, dont une attestation d'assurance. Pour les élèves de CP, le nombre maximum d'enfants recommandés est de 12 et pour les autres niveaux, il est de 15. La répartition des élèves dans les groupes sera organisée par les enseignants assurant l'encadrement de l'étude. Un règlement intérieur a été établi, il est joint à cette notice. Dans ce contexte, il est proposé au conseiller municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire. Merci.
Merci, Madame Léon.
Merci, Madame Léon. Oui, Madame Gosserand.
Nous ne nous opposerons pas à la mise en place de ce dispositif, même si nous doutons de son efficacité concernant la réussite des élèves. En effet, rassembler pendant 1h10 et 15 enfants de niveaux différents à la fin de la journée scolaire, soit 6 heures de classe, plus 1h30 de pause méridienne, n'est-ce pas ce que l'on peut imaginer?
Madame Cosseron, vous pouvez, sinon on ne va pas vous entendre sur l'enregistrement. Prenez-le à la main si vous voulez.
C'est bon?
Oui.
Merci.
Je reprends?
Oui, s'il vous plaît, pour être sûr qu'on est bien.
Voilà. Oui. Alors, nous ne nous opposerons pas à la mise en place de ce dispositif, même si nous doutons de son efficacité concernant la réussite des élèves. En effet, rassembler pendant 1h10 et 15 enfants de niveaux différents à la fin de la journée scolaire, soit 6 heures de classe plus 1h30 de pause méridienne, n'est-ce pas ce que l'on peut imaginer de mieux si l'on tient compte du rythme de la vie de l'enfant ? Certes, nous comprenons que cela puisse rassurer des parents de confier leurs enfants un peu plus de temps à un enseignant, mais que pourra faire réellement celui-ci en disposant de 3 à 5 minutes par enfant ? De plus, comme le rappelle sur son site le ministère de l'Éducation nationale, un enseignant ne peut pas donner à ses élèves un travail écrit à faire en dehors de la classe. Les devoirs à la maison peuvent être un travail oral ou des leçons à apprendre. Vérifié le 6 mars 2020, direction de l'information légale et administrative. Le dispositif proposé ne s'adapte donc pas au mieux à cette consigne. Pour que celui-ci ait un intérêt, il devrait concerner de plus petits groupes d'élèves repérés par les enseignants pour des difficultés passagères qu'une aide ponctuelle pourrait contribuer à améliorer. Ce n'est pas du tout votre objectif puisque lors de la commission sport, culture, jeunesse, il a été indiqué que la priorité sera donnée aux enfants qui seront inscrits 3 jours par semaine et toute l'année. C'est un véritable manque de souplesse qui est loin de s'adapter aux besoins de chaque enfant. Ce dispositif s'apparente donc à de la garderie et nous préférons insister sur la qualité et la diversité des activités proposées dans le cadre des accueils post-scolaires, qui risquent d'ailleurs de voir leur effectif décroître jusqu'à 18 heures. Nous nous abstiendrons donc sur la proposition de délibération numéro 14.
Très bien. Alors, quelques éléments de réponse. D'abord, les parents auront le choix, Madame Cosseron. Donc effectivement, ceux qui le souhaitent récupéreront leurs enfants à 16h30, ceux qui le souhaitent les confieront au centre de loisirs, et ceux qui font confiance à ce dispositif pourront inscrire leurs enfants à l'étude. C'est un dispositif qui est très répandu. Nangy est une anomalie, était jusqu'à présent une anomalie, puisqu'une des rares communes qui ne proposait pas ce service. J'entends votre rappel à l'ordre presque des enseignants qui, contre les recommandations ministérielles, oseraient confier des devoirs écrits aux élèves. Qui ici contesterait le niveau catastrophique qui s'effondre de nos enfants dans les écoles? Pas grand monde. En tout cas, pas ceux qui savent ce qui se passe réellement aujourd'hui à l'éducation nationale. Alors oui, il y a encore des enseignants courageux qui donnent des devoirs à faire, y compris écrits, parce que l'apprentissage, ça passe par l'écrit, ça passe par la répétition. Et cela, nous, municipalités, nous les soutenons. Parce qu'effectivement, depuis quelques dizaines d'années maintenant, les enfants ne font plus leurs devoirs, donc finalement, on n'en donne plus à faire puisqu'ils ne sont pas faits. Résultat, ils arrivent en sixième, ils ne savent ni lire ni écrire. Alors si grâce à ce dispositif, les enseignants peuvent redonner un petit peu de devoirs écrits parce qu'ils estiment que c'est bon pour les enfants, nous serons ravis. Voilà. C'est un dispositif qui est dans beaucoup d'écoles privées. Nous trouvons déplorable qu'il n'ait pas été mis en place plus tôt à Nangy. S'il est bon pour les enfants des parents qui mettent leurs enfants dans le privé, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas bon pour les enfants qui sont dans l'enseignement public. Voilà. Et enfin, dernier élément de réponse, vous reprochez de ne pas choisir les enfants qui pourraient profiter de ce dispositif, pour qui un dispositif à la carte serait plus profitable que d'autres. Ça, c'est le boulot de l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle propose les APC. Ce sont les enseignants qui proposent des dispositifs spécifiques aux enfants en fonction de leurs besoins. Nous, municipalités, nous ne sommes absolument pas capables d'évaluer les besoins pédagogiques, les besoins en apprentissage des enfants du primaire. Donc, nous proposons un cadre. Ça s'arrête là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Pilou. Juste pour compléter la réponse, moi je me souviens quand j'étais enfant ici à l'école des Rossignols, il y avait de l'étude. C'est un dispositif qui existait. Je ne sais pas pour quelle raison il a été supprimé, peut-être monsieur Billou vous allez pouvoir nous l'expliquer, mais c'est un dispositif qui a existé ici pendant très longtemps. Je vous en prie.
Oui, simplement, aucune évaluation de ce type de dispositif n'a permis aujourd'hui d'indiquer qu'il était utile à la réussite d'un élève. Alors, ça peut effectivement rendre service à des familles. Nous ne l'avons pas mis en place ici parce que nous avons considéré que le travail qui était fait par les animateurs de l'accueil post-scolaire le comprenait d'ailleurs pour une grande partie des familles qui le souhaitaient et que c'était dans un cadre d'activité beaucoup plus diversifié qui correspond effectivement à ce qu'un enfant peut attendre lorsqu'il a fini sa journée scolaire. Excusez-moi, on a travaillé ici avec un certain nombre de chercheurs, notamment des groupes de biologistes. Tous considèrent qu'un enfant de 6 à 10 ans, lorsqu'il a fait 6 heures à l'école, vous pouvez en rajouter, ça n'améliorera pas ses compétences, ça n'améliorera pas.
Il ne s'agit pas de rajouter du temps scolaire. Il y a des enseignants qui ne donnent pas de devoirs. Donc forcément, les parents n'inscriront pas leurs enfants à l'étude le soir. Il y a des enseignants qui donnent des devoirs à faire. Et donc les parents, s'ils n'ont pas les moyens, s'ils n'ont pas les compétences, s'ils n'ont pas le temps de suivre leur enfant pour faire les devoirs que leurs enseignants s'obstinent à donner, eh bien ils pourront le faire sur ce temps-là. C'est tout. C'est la liberté, monsieur Biou.
Si vous voulez. Cela étant, je fais remarquer que les ministres, quelle que soit d'ailleurs leur orientation politique, se sont succédés et ont maintenu cette directive auprès des enseignants. Il n'y a pas de travail écrit le soir dans les familles quand on est à l'école élémentaire. Donc vous pouvez considérer, vous, effectivement, maire de Nangis, que c'est une catastrophe. Bon, je pense qu'il faut quand même, entre nous, avoir un peu plus de modestie. Voilà. Si les études se sont arrêtées à une certaine période, c'est qu'effectivement les enseignants ne souhaitaient plus les encadrer. Point final. S'il y en a maintenant qui le souhaitent, c'est très bien. Nous ne nous opposerons pas.
Si c'est très bien, c'est parfait, nous sommes d'accord.
Nous ne nous opposerons pas formellement, mais très honnêtement, nous considérons que ce n'est certainement pas le meilleur dispositif à mettre en place pour permettre à des enfants, à tous les enfants. Vous parlez de l'école privée. Le jour où l'école privée scolarisera l'ensemble des enfants, quelle que soit leur catégorie sociale, on pourra peut-être en reparler.
Mais justement, monsieur Biou, il est bien là le drame. Vu l'effondrement du niveau de l'école publique, de plus en plus de parents se sacrifient, peu importe leur catégorie sociale, justement, pour pouvoir, parce qu'ils espèrent, parce qu'ils misent sur... Mais vous pouvez hocher la tête, monsieur Biou. Et vous savez où sont les tarifs les plus élevés dans les écoles privées ? Aujourd'hui, dans le 93. C'est pas dans le 78. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de scolariser un enfant dans le 78 parce qu'il y a beaucoup d'écoles que dans le 93, parce qu'il y a peu d'écoles et que tous les parents qui ont envie que leurs enfants réussissent misent sur l'école privée. C'est la réalité, monsieur Biou.
C'est pas la réalité.
Alors après, évidemment, il y a eu d'autres dispositifs. Madame Najat Vallaud-Belkacem, elle a fait des choses formidables avec les NAP. Tellement formidables qu'on n'a même pas osé en faire l'évaluation avant de les supprimer. Non, pas les APC, je vous parle pas des APC, je vous parle des NAP. Et avant, on avait fait mieux, on avait supprimé l'école le samedi matin. Comme ça, on a retiré à tout le monde, à tous les enfants, 3 heures de classe par semaine, 36 semaines par an, sur 5 années de scolarité au primaire. Et à la place, on a mis les APC seulement pour quelques-uns.
Oui. Rappelez-moi quel était le ministre qui a supprimé effectivement le samedi matin.
C'était un ministre de droite, oui, oui. Bah, si les conneries étaient spécifiques à ceux de gauche, on n'en serait pas là. Pardon ? Non, j'ai pas le souvenir que la gauche arrive au pouvoir et changer quelque chose. Oui, monsieur Durox.
Je voudrais intervenir très brièvement sur ce sujet. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, notamment en raison de ce que vous avez pu avancer. Je ne suis pas très étonné que M. Biou, qui est tenant et défenseur ici de cette idéologie gauchiste mortifère, qui a conduit à l'effondrement du niveau scolaire en France. Et j'ai une question à poser à M. Biou. Pensez-vous pas qu'il y a peut-être une corrélation entre ces demandes, ces consignes de l'état profond, finalement, de l'éducation nationale? Parce que quand vous dites oui, les ministres, etc., on sait très bien, quand on s'intéresse au sujet, que les ministres ont peu d'emprise sur les décisions de l'administration de l'éducation nationale, qui n'en fait finalement qu'à sa guise. Les ministres changent et l'administration reste. Et l'administration de l'éducation nationale, elle est traversée depuis une quarantaine d'années par les héritiers de Bourdieu et compagnie, qui considèrent que l'enfant doit être au cœur du système, qu'on ne doit pas leur donner surtout pas de travail, et peut-être qu'il y a peut-être une corrélation entre ça et le niveau catastrophique des élèves en France que tous les classements internationaux attestent.
Sauf
M. Bidou et ses amis, en général de gauche, tous, classement PISA, classement TIMSS. Nous avions auparavant l'une des meilleures écoles au monde. Aujourd'hui, nous sommes derniers dans tous les classements internationaux. Et c'est en partie, je suis désolé de le dire, en partie à cause de gens comme vous et de vos amis. D'accord ? Donc, vous avez été en plus de la maison. C'est absolument honteux que ce soir, vous continuez finalement à empêcher des élèves de Nangis qui veulent éventuellement s'en sortir par ce genre de
dispositif. Qu'est-ce que vous proposez à la place qui continue à jouer le soir, etc. Non, c'est en travaillant qu'ils s'en sortiront et qu'ils s'émanciperont. C'est certainement pas en continuant à jouer. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée de permettre aux enfants d'Angers de s'en sortir par cette voie. Voilà.
Pardon ?
Gratuitement, par contre...
Écoutez, c'est 1,50€.
Les enseignants vous...
Non, on va le voter sur la délibération suivante. Je pense qu'on va en reparler. Donc, sur le principe de la mise en place du dispositif, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 6 abstentions. Je vous remercie. Donc, le point suivant concerne donc la définition des tarifs de participation des familles. Madame Lyon.
Mise en place du dispositif études surveillées dans les écoles élémentaires de la commune de Nangis. Définition des tarifs de participation des familles. Dans le cadre de la mise en place du dispositif d'études surveillées dans les écoles élémentaires de la commune, à compter de l'année 2021, il est nécessaire de définir le montant de la participation des familles. Les élèves qui seront inscrits pourront, au-delà de 18 heures, heure de fin, être accueillis à l'accueil post-scolaire. Il est donc proposé de définir les tarifs comme suit. Tarif études, tarif unique, première, deuxième, troisième tranche à 1,50€. Extérieur, 2€. Tarif études plus APPS. Première tranche, 2,30€. Deuxième tranche, 2,55€. Troisième tranche, 2,75€. Et les extérieurs, 3,15€.
Merci. Merci, Madame Lyon. Oui, Madame Lagarde, je vous en prie.
Madame le maire, concernant donc cette délibération et sur les tarifs de ce dispositif pour les familles, nous voterons résolument contre. Comme nous l'avons exprimé en commission de finances, pour la première fois dans le domaine de l'éducation, vous renoncez à appliquer un tarif dégressif en fonction des revenus des familles et ça, nous ne pouvons l'accepter. Vous nous avez indiqué que les tarifs étaient bas, mais... La participation des familles correspondra à peu près des 2/3 du coût du dispositif. Il s'agit donc d'une participation assez importante au contraire. Si l'on ajoute que vous voulez accueillir, et vous venez de le dire, en priorité les enfants qui sont inscrits 3 jours par semaine et toute l'année, le coût pour les familles modestes ne seront pas supportables. Nous voterons donc contre.
Madame Lagoutte, vous nous expliquerez où vous mettez le seuil du pas supportable, puisque je précise quand même que les tarifs de l'étude, tels que proposés au vote, sont donc moins élevés que les tarifs les plus bas de l'accueil du centre de loisirs jusqu'à présent. Donc ça veut donc dire que les tarifs que vous aviez votés n'étaient donc pas supportables pour les familles.
Ce n'est pas le même service, madame, vous savez qu'on est pas sur un pendant 4 mois.
Donc en fonction du service, il y a un tarif qui est supportable et un tarif qui est insupportable. Donc pour calculer ce tarif, c'est donc la moitié du tarif des APPS qui a été donc pris, auquel on a ajouté le tarif forfaitaire à 1,50€ pour toutes les familles. Pardon ? Oui, donc le tarif final prend bien en compte le quotient familial, puisque le tarif d'étude est le même pour tout le monde. Vous l'avez peut-être, c'était peut-être pas clair, Madame Lagoutte, vous n'avez pas compris.
J'ai tout à fait compris, Madame le maire, mais pour des enfants qui ne vont qu'à l'étude, il s'agit bien d'un tarif unique, et donc qui n'est pas dégressif en fonction des revenus,
ou qui n'augmente pas en fonction des revenus, c'est ça que vous voulez dire, peut-être.
Il n'est pas calculé au quotient. Donc nous voterons contre.
Mais le tarif pour les enfants qui vont à l'étude et au centre de loisirs, le tarif est bien en fonction du quotient familial. Donc qui est contre ce projet de délibération ? 6 oppositions, qui s'abstient. Je vous remercie. Avant de passer à la délibération suivante, je voudrais simplement saluer le travail qui a été fait sur cette question de la mise en place des études par Madame Lyon et par Madame Pieux-Sergue, ainsi que le travail du service éducation et des agents. Magali, vous pourrez leur signaler. Alors évidemment, avec la Covid, on ne sait pas où on va, mais enfin, on espère quand même que tout est fait, en tout cas pour que ce soit mis en place à la rentrée des vacances de février. Donc, comme Madame Lyon vous l'a expliqué, sur une école pilote généralisée à la rentrée, c'est une attente forte des parents, des familles. Voilà, et en tout cas, je voulais publiquement saluer le travail des services et l'investissement de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il s'agisse des enseignants, des parents d'élèves, tout le monde s'est vraiment mobilisé, malgré le contexte, pour participer aux réunions de travail, aux réunions de concertation. Et donc ça, c'était vraiment une très bonne chose. Voilà, je voulais saluer l'investissement des uns et des autres. Alors, la délibération suivante concerne donc la demande de subvention auprès de la CAF dans le cadre de la mise en place d'actions en relation avec la parentalité. Madame Pieux-Sergue.
Alors, bonsoir à tous. Donc, cette délibération a pour objet la demande d'une subvention auprès de la CAF de Seine-et-Marne dans le cadre de la mise en place d'actions en relation avec la parentalité. Dans le cadre du projet éducatif de Nangy, un des objectifs qui a été reconduit est d'accompagner tous les acteurs de la réussite éducative. Pour ces actions, la CAF de Seine-et-Marne peut apporter son soutien financier et l'association Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents propose d'aider à la mise en place des projets autour de la parentalité. En 2020, les actions ont été financées par la CAF à hauteur de 80%, soit 7 300 €. Le comité consultatif éducation, qui s'est réuni le 3 décembre dernier, a fait le bilan de ces actions et a souhaité la reconduction d'actions en relation avec la parentalité pour l'année 2021. C'est donc dans ce cadre qu'il vous est proposé aujourd'hui de demander pour l'année 2021 une subvention à la CAF de Seine-et-Marne. Les objectifs qui sont retenus et qui sont remis en avant sont favoriser les échanges entre les parents et également entre les parents et les professionnels pour créer du lien. Favoriser la réussite des enfants, favoriser les échanges parents-enfants, soutenir les parents dans leur rôle d'éducateurs. Les actions susceptibles de répondre aux objectifs qui seront proposés. Créer des espaces parents et des espaces parents professionnels. Impliquer les parents dans les actions éducatives mises en place par la ville. Favoriser des journées ressources. Proposer des débats autour de divers thèmes et proposer des ateliers parents-enfants.
Merci Madame Pieux-Sergue. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Alors, je vous propose de soumettre la délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant qui concerne les ressources humaines, Monsieur Lancel.
Je vous remercie. Ça, c'est dans la continuité de ce qui a été dit juste avant. C'est le recrutement et la rémunération d'heures effectuées par les enseignants pour le compte de la ville de Nangy. Donc, la municipalité souhaite développer les études surveillées que nous avons évoquées juste avant. À travers différents décrets que vous avez tous reçus, on a moyen de le faire. Et ce temps d'encadrement qui sera partagé à travers des temps d'études et des temps surveillés. Ouvre à rémunération en faveur des personnes qui sont volontaires et qui rendent son service à l'ensemble des administrés pour leurs enfants. Il a été, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance des montants, nous avons fait le choix de rémunérer le mieux possible les actions de ces personnes, parce que nous pensons qu'il faut motiver les gens. Quand on prend un service comme celui-ci, c'est important d'être correctement rétribué. Donc, au niveau des heures, vous avez à l'article 2 les heures d'études surveillées qui vont de 20,03 € pour un instituteur exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire, pour les instituteurs exerçant en collège. Oui, effectivement, il n'y a plus d'instituteur. Le professeur des écoles de classe normale 22-34, 24-57 pour le professeur des écoles hors classe exerçant au nom des fonctions de directeur d'école. Concernant les heures de surveillance, c'est un peu moins puisqu'il n'y a pas l'action de participer à l'éducation au sens l'aide de loi. Les instituteurs exerçant 10-68, les professeurs des écoles 11-91, professeurs des écoles hors classe 13,11 €. Avez-vous des questions?
Alors, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est donc l'approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne.
Un autre sujet, ça correspond, c'est lié à la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne. C'est permis de faire appel, entre guillemets, un peu à la prestation externe à travers différentes lignes. Le conseil municipal, je vais vous donner un petit peu quelques montants. Les prestations RH, on est sur au niveau du centre de gestion des options qui permettent les études et les instructions de différentes demandes à travers différents montants pour 204 € pour certains actes relativement compliqués qui permettent à nos agents d'avoir de l'aide. Nous avons aussi l'option 2, les notes juridiques sur application de la réglementation chômage pour un montant 2021 de 72 €. Les options 3, actualisation d'un montant de location à l'appui du cadre réglementaire, révision d'un dossier déjà instruit pour 21 €. La prestation atelier du statut, forfait par participant au centre de gestion avec le repas inclus, des sessions pédagogiques d'une demi-journée 133 €, sessions pédagogiques d'une journée 266 € en intra-mutualisé, c'est-à-dire si on partage certains frais, on tombe à un prix de 153 € par jour, sessions pédagogiques d'une journée à 306 €. Intra dans les collectivités, sessions pédagogiques d'une journée pour 12 participants pour 1632 €. Prestation d'examen du dossier individuel BEDI, le taux horaire d'intervention, 51 €. Les prestations ateliers de formation retraite forfait par participant au centre de gestion, l'atelier 1 correspond au dossier de validation de rétablissement, c'est les sessions pédagogiques d'une demi-journée pour 72 €. Atelier de réglementation retraite, session pédagogique d'une journée, 144 €. Au centre de gestion, l'atelier 3, l'utilisation des applications informatiques de la CNRACL, c'est la session pédagogique d'une demi-journée pour 82 €. En intramuros, c'est-à-dire sur site, les dossiers de validation et de rétablissement, les sessions pédagogiques d'une demi-journée, 92 €, les journées entières, 184 €. Études ergonomiques de poste et analyse de situation de travail en vue du maintien dans l'emploi. Sur le poste de l'agent, alors ça c'est intéressant parce qu'on a découvert qu'il y avait des agents qui avaient des conditions relativement difficiles au sens tenue de travail. Quand je dis tenue de travail, c'est au niveau de leur poste de travail. Donc on a pu faire avec eux des prises en charge au niveau de la convention triannuelle. Ça n'a pas été facturé, mais on a pu faire venir des gens qui nous ont permis de constater certaines nécessités de fauteuils ou aussi de tables ergonomiques. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions à poser sur ces sujets?
Alors, je vous propose donc de soumettre cette délibération au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne donc une création de poste dans la commune.
création de poste, effectivement, délibération 019, une fois n'est pas coutume, hein, de l'avion deux adjoints en poste de poste technique. L'un d'entre eux a décidé de mettre fin à son contrat et celui qui restait a souhaité pouvoir reprendre les heures qui étaient affectées à la personne qui partait. Donc nous créons le poste qui correspond à ce, entre guillemets, cumul d'heures pour lui permettre d'exercer son activité. Voilà. Avez-vous des questions ?
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est donc l'approbation du projet d'établissement pour le multi-accueil La Farandole. Je vais laisser la parole à Madame Léon.
Approbation du projet
d'établissement. Approche-toi du micro, Edith, parce que.
C'est bon là ?
Oui,
c'est bon. Approbation du projet d'établissement du multi-accueil de Nangy. Le multi-accueil de la Farandole est un établissement d'accueil du jeune enfant qui est composé d'une crèche familiale et d'une halte garderie. La crèche familiale accueille des enfants âgés de 4 mois à l'âge de la rentrée scolaire, suivant leur troisième anniversaire. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h. La halte garderie accueille des enfants du même âge de mercredi matin de 9h à 11h et à partir de 18 mois, de mardi et de jeudi de 9h à 17h. Il a pour mission de favoriser le développement de l'enfant en lui faisant bénéficier des avantages qu'apporte la collectivité, respecter le rythme et les besoins de chaque enfant et lui permettre l'accès aux jeux, loisirs et à l'éveil sur le monde qui l'entoure, soutenir la parentalité, faire en sorte que les professionnels accueillent les parents et les membres des familles des enfants dont ils ont la charge en leur reconnaissant une véritable place à leur côté, en les acceptant dans leurs différences, en les aidant dans leurs devoirs envers les enfants. Permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale. Dispenser les soins nécessaires à l'enfant, repas, change, alimentation, et assurer un suivi de la santé, vaccination, etc., et du développement psychomoteur. Collaborer avec les familles et les autres professionnels des services extérieurs à la prise en charge des enfants en situation de handicap ou de maladie chronique compatible avec la vie en collectivité. La finalisation du projet d'établissement du multi-accueil La Farandole répond à une obligation légale du Code de la santé publique et plus précisément aux articles R 2324-18 et R 2324-21. Le projet d'établissement comprend notamment le projet éducatif, le projet social, les prestations d'accueil, les compétences professionnelles mobilisées. Il met en avant le travail quotidien de chaque agent. Et je voudrais apporter au niveau du projet éducatif et pédagogique pour les parents, les informer sur la recherche du meilleur mode d'accueil, accompagner, préparer l'éloignement de l'enfant à ses parents, associer, donner une place aux parents tout au long de l'accueil, et pour les enfants, protéger pour un environnement sécurisant et contribuer à la bonne santé des enfants. Observer, être attentif à chaque enfant, éveiller, contribuer au bien-être et à l'éveil de chaque enfant. Ce document est obligatoire dans le cadre de la demande d'autorisation auprès du président du conseil départemental, ainsi que pour effectuer des demandes de financement. Et je pourrais ajouter au niveau des financements, les moyens financiers, la participation des familles selon les ressources et la composition familiale, la commune participe au budget de fonctionnement et investissement, le personnel sont des agents communaux et local, propriété de la ville, le local de la propriété de la ville. Subvention du département avec demande pour aide au fonctionnement. Une convention d'objectifs et de financement 2019-2021 avec la CAF permet de bénéficier de subventions.
tels que PSU, la prestation de service unique avec bonification, subvention mixité sociale et bonus, pas pour l'inclusion, handicap, puisque pas d'accueil pour le monde. Subvention de la CAF pour prestation du service CEJ, contrat enfant-jeunesse 2018-2021. Subvention exceptionnelle sous certaines conditions de la CAF, suite au Covid, place inoccupée, cas contact, CPAM. Voilà. Si, pas facturation en famille, et c'est pour le cas de la farandole. En annexe, vous aurez la charte de bien-traitance. On peut la rapprocher de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant qui va bientôt mettre en œuvre. Il est à noter que suite au rapport des 1000 premiers jours de l'enfant remis au secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, une réforme mode d'accueil, dite Norma, sera normalement effective en été 2021. Généralisation et harmonisation du projet éducatif de l'accueil des enfants avant 3 ans. Voilà.
J'ai oublié la petite phrase. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer le projet d'établissement. Merci Madame le maire.
Merci Madame. Oui, Monsieur Billon.
Oui, juste pour souligner que le multi-accueil, ce service que nous avons créé il y a quelques années déjà, sous la forme d'une crèche familiale, puis que nous avons développé sous la forme d'un multi-accueil, est effectivement un service auquel nous tenons beaucoup. La période sanitaire a sans doute fait prendre du retard à l'approbation de ce règlement intérieur sur lequel nous avions déjà beaucoup travaillé, et donc évidemment de votre part.
Je vais juste rajouter un petit élément d'information. Madame Lyon, vous avez utilisé un certain nombre de fois le mot subvention, puisqu'effectivement l'établissement est subventionné en grande partie par la CAF. Mais pour la complète information de cette assemblée, alors je m'approche de l'écran. Le reste à charge pour la commune sur l'année 2017, c'était quand même 160 000 euros, 126 en 2018 et 208. En 2019. Donc, heureusement, évidemment, que l'établissement est subventionné, et ça représente un coût important pour la collectivité. Voilà.
L'éducation coûte cher.
Essayez l'ignorance, c'est ça la fin. Alors, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Madame. Le point suivant, donc nous allons laisser la parole à Monsieur Farrois. Il s'agit donc de revenir sur une délibération qui avait été soumise à un précédent conseil municipal qui porte sur le budget annexe des activités culturelles et les droits d'utilisation des salles municipales. Monsieur Farrois.
Les salles municipales est accordées comme suit. Aux associations d'angiciennes, au 6 septembre, une fois par an, sauf partenariat ou particulier. Salle de répétition ou salle de danse CMJ, plus répétition. Autre salle pour la réunion. Aux associations d'utilité publique, aux organisations syndicales, aux associations de partis politiques, CMA, ateliers, foyers d'amitié, pour leur réunion permanente. Une fois par mois maximum, afin de permettre le respect de l'égalité de traitement. Aux associations, partis politiques, le CMA et les râteliers, foyers de l'amitié, pour leur réunion permanente, une fois par mois, maximum, afin de permettre le respect de l'égalité de traitement. Du 6 septembre, une fois maximum pendant chaque période de campagne. Et aux administrations publiques. Aux établissements scolaire de Nangy, 6 septembre, une fois par an, pour un spectacle de fin d'année ou une soirée festive et pour leur réunion. Aux agents titulaires, stagiaires et contractuels en activité sur l'emploi permanent et aux élus. La salle, une fois par an au maximum. Pour les 20, 30, 40, 50 ou 60 ans de l'agent ou de l'élu, son départ en retraite, son mariage, le mariage de ses enfants, filiation directe, le baptême ou la communion des enfants et petits-enfants, l'anniversaire de ses enfants une fois en tout, 18 ans et 20 ans, excusez-moi. Pour les salles de danse et de musique situées au service municipal jeunesse, la gratuité est accordée si, seulement si c'est l'association à son siège est situé sur Nangis, ou si au moins un Nangicien fait partie du groupe. Ou si au moins un Nangicien fait partie du groupe, excusez-moi. Évidemment, ces salles sont liées aux conditions sanitaires qui sont en vigueur actuellement. Pour le tarif des salles, je vous laisse libre de lire le tableau, car il y en a un grand nombre, il est impossible de lire. Article 7. Il est procédé au versement des arts à hauteur de 25% des tarifs de location et de réservation des salles. En cas d'annulation, à l'initiative du demandeur, les arts sont remboursés comme suit. Désistement dans un délai d'un mois avant la manifestation. Désistement de 1 mois à 2 mois avant la manifestation et désistement plus de 2 mois avant les manifestations. Voilà. Dans le premier cas, les arts seront restitués en totalité. Le second cas, 1 ou 2 mois, 50% des arts seront versés ou remboursés. Et désistement de plus de 2 mois, 100% seront remboursés. Article 8 décide que le versement des salles pour la location une salle interviendra un mois avant l'événement aux heures d'ouverture du service culturel. Article 9 dit que les recettes seront inscrites au budget annexe activité espace culturel et section de fonctionnement. Article 10, la délibération 2020 novembre 154 est abrogée.
Merci, M. Farrois.
Oui, je crois que c'est terminé, là. Après, ce sont les...
Madame Lagoutte, je vous en prie.
Allez-y.
J'ai une petite juste observation matérielle. Du coup, dans l'article 1, il y a deux fois répété aux organisations syndicales, aux associations, CMA, râteliers, foyers, voilà. Il y a deux fois. Donc... Je crois que c'est aux associations partis politiques du 6 septembre, c'est ce qu'il est différent.
C'est-à-dire le premier paragraphe, on l'enlève, voilà, et on laisse le second uniquement aux associations slash partis politiques. Voilà. C'est ça.
Oui, il y a juste du 6 en fait.
C'est peut-être, à mon avis, c'est le titre. Il doit y avoir une erreur parce qu'aux associations reconnues d'utilité publique, il n'y a rien. Donc peut-être que c'est le corps du.
Il y a deux fois.
Du paragraphe, en fait, CMA, râtelier, foyer de l'amitié, qui devrait être au-dessus, sous association reconnue d'utilité publique, et le titre en gras, association syndicale, association parti politique, soustrait.
Oui, il y a quelques répétitions que j'ai effectivement.
Vous suivez ?
Voilà. Il y a juste une répétition.
Oui,
mais aux associations reconnues d'utilité publique, il n'y a rien. C'est pas détaillé.
Il n'y a pas de condition.
Oui, tout à fait.
Et sur une autre phrase, il y en a aussi.
Il n'y a pas de limite. Donc, ce que je vous propose,
c'est peut-être parce qu'elles sont gratuites pour
c'est gratuit, tout ça.
Voilà, ça veut dire. C'est pour ça qu'il n'y a rien.
Il n'y a pas de limite dedans.
Pour les associations reconnues d'utilité publique, à chaque fois qu'ils demandent une salle, elle est acceptée à titre gratuit. C'est ce que ça veut dire, je pense.
Le premier article, c'est décide que la gratuité de la location des salles municipales est accordée comme suit. La gratuité.
Donc c'est aux associations d'utilité publique, c'est gratuit.
Donc on se contente de supprimer le premier paragraphe qui concerne les associations syndicales. Vous me suivez ? Article 1, décide, on garde. Association nangicienne avec les trois lignes d'en dessous, on garde. Association reconnue d'utilité publique, on garde. Paragraphe suivant, on l'enlève, parce que c'est le même que celui qui est écrit en dessous. Sauf qu'il n'y avait pas la salle d'Ulcy. Donc le second étant plus complet, on enlève le premier paragraphe et on ne garde que le suivant, association parti politique. On rajoute syndical.
Voilà, c'est dans le
Et tous les tarifs, je vous les laisse contempler.
Donc, association, parti politique, organisation syndicale.
Et je vois que vous avez pris en compte quelques observations que nous avions faites lors de du conseil dernier. Nous vous en remercions.
Merci à vous. Donc, avec ces modifications-là, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous allons passer au tarif de participation aux activités organisées par le service jeunesse à compter du 1er janvier 2021. Alors, jusqu'à présent, les activités du service jeunesse, enfin, on s'est fonctionné encore, il n'y avait pas de tarification, c'était totalement gratuit. Mais après étude des fonctionnements et des financements de la CAF, on s'est aperçu que du coup, ça privait la structure de subventions. Donc, c'est pour cette raison qu'a été décidée une adhésion symbolique annuelle au tarif d'un euro, sans distinction de l'origine géographique des jeunes, puisque le SMJ étant situé près du lycée, à destination des élèves des établissements scolaires de Nangy, il était pour nous inimaginable qu'un jeune puisse venir avec ses camarades de classe qui resteraient à la porte parce qu'ils n'habitaient pas Nangy. Donc le tarif est donc à 1 euro pour tous les jeunes pour l'adhésion annuelle. Vous trouverez ensuite donc, le tarif des activités et des sorties. Donc un tarif cinéma, donc il s'agit de projections spécifiques pour les jeunes, encadrées, préparées et pas simplement de billets pour que les jeunes aillent seuls de façon autonome au cinéma. Les ateliers création manuelle, artistique, scientifique, donc dans le cadre de la participation d'un prestataire, on est donc à un tarif symbolique à 1 euro. Les spectacles à l'espace culturel, 5 euros. Et pour ce qui concerne les sorties, nous avons donc choisi de nous aligner, de prendre en compte le coût réel et donc de proposer une tarification à 50% du coût réel et un forfait de 2 euros pour le transport en Île-de-France. Et pour ces sorties, évidemment, la participation de la commune ne concerne que les jeunes de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donc soumettre la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, Monsieur Lancel, je vais vous passer la parole pour l'accord de la garantie d'emprunt accordée à Trois Moulins Habitat.
Merci, Madame la Maire. Bon, c'est encore une délibération qu'on a pu voir en commission des finances. C'est un accord de garantie dans le cadre d'une remise en état de logements qui sont propriété de Trois Moulins Habitat, situés rue du Général du Taï, il y a 18 logements et ça, il nécessite une remise un rafraîchissement profond. Donc, notre souhait, c'est bien sûr de faire en sorte que les logiciens, soient le mieux logés possible. Donc, nous sommes favorables à ce genre de remise en état. La délibération porte par Jean Brouillet le 24 décembre 2020. C'est Trois Moulins Habitat qui nous a sollicité à travers une copie de l'emprunt. Le montant de cet emprunt est de 485 421 euros qui est contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Bien entendu, comme tout organisme financier, ils veulent se couvrir à hauteur de 100% et ils demandent donc, face à l'intérêt de ce projet, que le conseil municipal accorde des garanties de 100% pour cette somme.
J'ai juste une petite interrogation. Je voulais savoir si dans le cadre des réhabilitations de ce type, le département était sollicité ou il est seulement sollicitées pour la construction. Parce que...
C'est-à-dire que par rapport à la garantie d'emprunt, est-ce que le département aurait pu
être sollicité ? Est-ce que là, seules les communes sont sollicitées pour la réhabilitation ?
C'est une très bonne question. C'est très bonne question. Est-ce que le département n'est pas simplement...
Est-ce qu'ils ont été sollicités, ils ont refusé, ou ils ne sont pas sollicités dans le cadre des réhabilitations ce type ?
Peut-être que si nous avions refusé, ils auraient sollicité le département.
Peut-être que grâce au montant, je ne sais pas répondre. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est, on peut poser la question, mais est-ce que le département n'a pas vocation à apporter une garantie uniquement sur la construction ?
C'est pour ça que je voilà.
Donc on pourra poser la question.
Merci.
Merci pour la question.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, monsieur Lancel. Non, monsieur Lancel me faisait remarquer que votre question est très, très pertinente. Et on regrette simplement qu'elle n'ait pas été posée en commission des finances, parce que du coup, ça aurait permis d'apporter la réponse en séance. Mais,
je n'y ai pas pensé. Mais on va y
répondre.
On
a posé la question. Bien sûr. Merci madame. Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, il s'agit maintenant de la demande de subvention DETR, donc 2021 cette fois. La dernière fois, c'était la 2020. C'est la campagne 2020, là c'est donc la campagne 2021 pour les travaux de restauration, enfin seulement les travaux les plus urgents de l'église. Madame Chute.
Oui, merci. Donc il s'agit effectivement des travaux de restauration de l'église Saint-Martin et Sainte-Magne. Et donc ce sera pour la phase 1, les travaux d'urgence de toiture et les compléments d'études préalables. L'église de Nangy est classée au titre des monuments historiques depuis le 28 août 1989 et a fait l'objet d'une étude préalable en 1992. Le programme prévu en 1992 n'a pas été suivi et l'entretien courant n'a pas été réalisé. Afin de sauvegarder cet édifice emblématique de la ville, il convient de réaliser des travaux d'urgence sur la toiture afin de pallier les apports en eau dans l'église et garantir la sécurité des occupants. De plus, un complément d'étude doit être réalisé afin d'actualiser l'étude de 92. Les travaux d'urgence portent sur une travée de couverture du bas-côté sud, le démoussage des toitures des bas-côtés et des chapelles rayonnantes, le curage des chéneaux et des descentes de gouttières, la remise en continuité des gouttières, la création des gouttières et des chapelles latérales, la pose de protection des personnes à l'aplomb des chutes d'enduit. Le complément d'études préalable doit permettre la mise à jour de l'étude de 92, l'évaluation des désordres afin d'envisager un programme de travaux de restauration, ce qui fera l'objet d'une phase numéro 2, et faire un état de l'installation électrique, des mesures de prévention civile et l'adaptation de l'édifice aux personnes en situation de handicap. Généralement, les deux ETR sont demandés pour un 80%. Et suite à une entrevue avec Madame la sous-préfète, il est envisageable de déposer une demande de DETR correspondant à 100% du montant hors taxe de l'opération au regard du caractère essentiel des travaux pour la conservation de l'édifice et la mise en sécurité des personnes. A été joint le dossier de la notice explicative pour la demande de dotation de DETR. Et sur cette notice, vous comprendrez l'état d'urgence de ces travaux de toiture.
Merci, Madame Chute. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Monsieur Bichot.
Quelques informations, peut-être. Tout le monde n'a peut-être pas la mémoire de l'édifice. Nous voterons, bien entendu, la délibération. De là à dire quand même c'est explicatif que le programme prévu en 1992 n'a pas été suivi, c'est oublier que 3 tranches sur 6 ont été réalisées, 3 tranches de réhabilitation intérieure de l'église. Il reste effectivement 3 tranches extérieures, ce sera sans doute l'objet de la remise à niveau de cette étude. Quant à l'entretien, je tiens à vous rappeler quand même qu'en 2013,
Nous avons changé complètement le chauffage qui était en panne depuis 2 ans. 2 ans, et oui, comme ça. 2 hivers sans chauffage, surtout qu'aujourd'hui on en paye encore, les dégâts. Je rappelle quand même que des interventions régulières sur toiture ont eu lieu depuis. Le démoussage, ça se fait effectivement régulièrement. C'est un peu compliqué, hein, parce que la toiture est un peu difficile d'accès. Voilà, donc je regrette un tout petit peu là, ce petit coup de pacte qui n'est pas tout à fait là où il faudrait. Hein. Cet édifice-là, il a suivi beaucoup, il a été suivi quand même beaucoup par les élus là, que je représente ici.
Écoutez, monsieur Billou, ce n'est pas nous qui avons écrit cette étude. Hein, c'est un architecte expert auprès de la Cour d'appel de Paris.
Le programme
de d'accord
c'est que la preuve n'a pas été suivie, l'entretien courant n'a pas été réalisé. C'est ça, c'est lui.
Ben, c'est un constat qu'il fait. Alors, j'entends que l'église n'a pas eu de chauffage pendant 2 ans. Enfin, je rappellerai quand même que, vu l'âge de l'église, elle a connu plus de 2 années sans chauffage, parce que la majeure partie de sa vie, il n'y avait pas de chauffage dans les églises. Et pour autant, elle ne s'écroulait pas. Je vous rappelle quand même que derrière le chœur, on ne peut toujours pas passer, il y a encore des poutres au sol. Alors, quand vous nous dites que 3 tranches de travaux intérieurs sur 6 ont été faites, d'abord, vous validez ce qui est écrit. 3 tranches sur 6, c'est ce que vous venez de nous expliquer.
3 tranches sur 3 intérieurs. C'était le programme de 1980.
Ah, donc tout a été fait à l'intérieur. Alors c'est que ça a été particulièrement mal fait pour qu'aujourd'hui on ait une poutre au sol.
Écoutez, vous en parlerez avec l'architecte.
Ben écoutez, c'est un constat, peut-être qu'il y a longtemps que vous n'y êtes pas allé. Ça c'est, voilà. Enfin, vous verrez, c'est toujours fermé et il y a une poutre au sol. Alors si vous nous dites que toutes les tranches de rénovation intérieure ont été faites, c'est d'autant plus inquiétant.
C'est le programme de 1992 qui a été suivi par l'architecte des monuments de France, M. François Moulin.
Peu importe le prénom. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a eu des travaux de toiture, vu l'expertise de M. Prieur et ce qu'on a pu constater en se rendant sous la toiture, c'est de voir qu'il y a de l'eau, qu'il y a de l'humidité. Voilà, donc je sais bien que votre stratégie, c'est de tout mettre sur les 2 années d'absence de chauffage. Seulement, ça n'est pas juste. Il y a peut-être eu des défauts de travaux. Mais allez-y, monsieur, vous pouvez compléter ma réponse.
Pardon, monsieur Pillou, juste une question. Il n'y a pas eu de chauffage pendant 2 ans, mais pourquoi?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas? Vous n'étiez pas maire à l'époque? Ben, pourquoi il n'y avait pas de chaudière? Vous étiez maire avant. La chaudière, ça fait 30 ans.
La chaudière est tombée en panne.
Ah.
Et elle n'a pas été réparée.
Et pourquoi elle n'était pas réparée?
Je n'en sais rien.
Vous ne savez pas. Ah, c'est dommage. L'état d'étuité globale du matériel ne permettait pas forcément l'entretien.
Mais qu'est-ce qu'on a fait?
Ben, vous avez changé quand vous êtes revenu parce que vous avez peut-être vu des deniers qui étaient disponibles à l'époque. C'est peut-être ça aussi. Vous savez, on fait les choses en fonction des moyens qui sont les nôtres. Nous, on se bat aujourd'hui, on a une subvention grâce à certaines visites chez les préfets, chez les sous-préfets. On se bat pour les subventions. Si on arrive à avoir une subvention au taux de 100%, ce sera parfait.
Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, avant de... quelques petites précisions. Alors, les questions diverses. Donc, Monsieur Durox, vous nous avez... je ne vous vois pas. Merci. Vous nous avez transmis vos questions, mais le règlement intérieur précise que les questions doivent être transmises dans un délai de 3 jours ouvrables. Donc, 3 jours ouvrables, lundi, le samedi, puisque la mairie est ouverte le samedi, et le vendredi, donc les questions doivent... nous parvenir au plus tard le vendredi. Donc nous apporterons une réponse à vos questions écrites comme nous l'avons précisé à Mme Lagoutte
dans le prochain compte rendu du prochain conseil municipal, mais vous comprendrez que nous ne pouvons pas y répondre, nous ne souhaitons pas déroger à la règle, au règlement intérieur de cette assemblée. Et nous nous étonnons de votre question qui portait sur Total, puisque tous les élus municipaux de Nangy, majorité comme opposition, ont été invités par l'entreprise et ses représentants et ont eu une réponse très complète, beaucoup plus complète que celle que nous-mêmes pourrons vous apporter. Et en tout cas, cette question avait été largement expliquée par le directeur de l'entreprise.
Oui, oui, je n'ai pas de problème, je n'avais pas pu me rendre, donc vous avez pu
Mais nous, voilà, nous y répondrons, mais dans le prochain conseil municipal. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, parce que sinon on n'entend pas.
Je comprends le principe du règlement intérieur, mais vous voyez aussi y répondre là, mais c'est pas grave, je peux attendre, ça ne se passe pas. Peut-être sur la question du Covid, j'aurais bien aimé une réponse ce soir, ceux qui nous suivent aussi. Voilà, parce que bon, c'est un petit peu d'actualité quand même. Mais enfin, je vous laisse le temps de répondre.
Quelques précisions, Madame Lagoutte, concernant la question que vous nous avez posée au sujet des commissions. Vous nous avez soumis les noms de conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires pour intégrer les commissions communautaires conformément au vote du nouveau règlement intérieur de la communauté de communes. Et donc, puisque nous souhaitons travailler en bonne intelligence avec la communauté de communes, nous les rencontrons vendredi. Donc, nous allons en échanger avec eux pour que le vote du conseil municipal de Nangy ne soit pas invalidé après en conseil communautaire. Bien évidemment, nous prenons en compte votre demande. Nous y donnons nous-mêmes un avis favorable, je vous le dis. Mais nous verrons les modalités avec la communauté de communes lorsque nous les rencontrons vendredi. Voilà. Encore une remarque concernant une des délibérations que nous avons votées lors du dernier conseil municipal. Il s'agissait de la délibération qui règle la participation des seniors lors de leurs activités. Donc nous avons été particulièrement attaqués sur les réseaux sociaux puisque vous avez dit de nous, la majorité de droite a voté une augmentation hallucinante de la participation financière pour les sorties des seniors. Pour celles et ceux qui perçoivent le minimum vieillesse, une augmentation de plus de 250%. Leur participation passera de 20% du coût de la sortie à 70%. Autant dire qu'une grande partie de nos aînés seront privés de sortie, c'est honteux. Même chose pour celles et ceux qui avaient un petit peu plus de revenus, leur participation passera de 50% à 70%. En revanche, toujours dans la logique de cette vieille droite, cessons de taxer les riches, les plus aisés verront leur participation diminuer de 26%, passant de 95% à 70%. Et la nouvelle municipalité ose appeler cela de la justice sociale. Alors je voudrais simplement vous préciser une chose. Vous pourrez aller vérifier sur le site internet de la ville ou dans vos archives. La participation, le tarif unique pour les sorties à destination des seniors et des retraités sera de 70% du coût de la participation individuelle, transport compris. C'est une délibération, Monsieur Billou, que vous-même avez prise le 4 novembre 2019. Nous n'avons fait que reprendre exactement le même article concernant les activités des seniors. C'est assez cocasse que vous soyez aussi critique avec une délibération que vous-même avez prise. Nous n'avons fait que supprimer le premier article de la délibération,
puisqu'il concernait les voyages à l'étranger. Alors d'abord, vu la période Covid, il ne nous semblait pas urgent de délibérer sur les voyages à l'étranger. Et puis, dans le souci d'informer notre aimable Assemblée, je voudrais quand même rappeler qu'en 2017, le voyage à l'étranger n'avait concerné que 10 seniors nangiciens. Et un ou une élue qui était prise en charge. En 2018, 14 seniors nangiciens. Et en 2019, 14 seniors nangiciens. Donc pour une commune de 8700 habitants, il nous est apparu que ces dépenses n'étaient pas prioritaires, et surtout vu le contexte. Donc nous avons supprimé, comme je l'avais précisé, l'article qui concernait les voyages, mais l'article qui concernait les sorties est donc strictement le même que celui que votre majorité avait voté en novembre 2019. Madame Lagoutte, je vous en prie.
Madame le maire, s'agit-il d'une question orale, là, ce dont vous nous parlez ?
C'est un complément d'information.
Ah, d'accord. Parce qu'on avait, lorsque nous avions débattu la dernière fois en conseil, qu'il y avait des observations ou des questions sur la pratique de notre ancienne municipalité, on était censé aussi avoir des informations pour qu'on puisse aussi vous apporter des réponses. Donc, c'était juste une petite réflexion. Puisque quand ça nous concernait, vous étiez d'accord pour nous donner aussi... Mais ce n'est pas une question, c'est juste une information.
Alors, votre... Oui, là, c'est juste une information. C'est cela. Puisque je n'avais pas... nous n'avions pas avec nous la dernière fois les délibérations de l'année précédente. Donc, voilà, nous n'avions pas forcément les arguments à ce moment-là. Nous les avons, donc nous complétons simplement l'information pour nous précisons que la délibération était strictement la même que celle qui avait été votée l'année dernière. Voilà. Il s'agit uniquement d'éléments d'information. Nous en avons l'information concernant les mises à disposition, pardon, j'avais oublié cet élément-là. Monsieur Ancel.
Bon, c'est une information pour le conseil municipal, pardon, je vais parler dans le micro. Dans le cadre de l'apparition de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et ce à compter du 1er janvier 2020, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités, détachement interne et dispositions d'attachement, ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires. Les mises à disposition, nouvelles et modifications ne sont donc plus soumises préalablement à l'avis de la CRP. Conformément à l'article 1er du décret 2008-580 du 18 juin 2008, l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale est informée préalablement des mises ou renouvellement de mises à disposition du personnel communal. À ce titre, pour l'année 2021, est mis à disposition auprès de la Caisse des écoles de Nangy, mise à disposition 13 février 2021, un agent spécialisé des écoles maternelles principales de deuxième classe à temps complet. À ce titre, pour l'année aussi 2021, est mis à disposition auprès de la communauté de communes de la Vénangicienne, la CCBN, à compter du 2 février 2021, un technicien principal de deuxième classe à raison de 18,5 heures hebdomadaires, le cas échéant au prorata du temps partiel. À ce titre, et jusqu'à la nomination effective aussi par voie de mutation fin mars 2021 ou début avril 2021 au sein de la commune de Nangy, nous avons donc une nouvelle directrice des finances qui va arriver. La commune de Gevry-Cossigny nous met à disposition auprès de notre commune un agent détenant le grade d'adjoint administratif principal de première classe à raison de 7/35e. Nous aurons donc ces personnes une journée par semaine pour débuter les choses importantes qui est le budget.
Lors du conseil municipal du 30 novembre, on avait
On avait délibéré plusieurs fois sur des décisions modificatives et il avait été prévu une enveloppe de 13 200 euros pour pouvoir recruter un directeur financier. Donc je voulais savoir si effectivement c'est par le biais de, ce, de cette prestation de service que vous avez pu recruter. Et
voilà,
s'il n'y a vraiment eu que mutation,
et quelqu'un, peut-être pas sur le territorial. Non, je reprends non, au sens que ce n'est pas. Effectivement, il y avait un budget qui était alloué pour essayer de trouver quelqu'un à travers un cabinet de recrutement. On a eu la chance de trouver une personne de qualité sans le recours, sans l'action complète du cabinet de recrutement, ce qui équivaut à une baisse significative du coût. Et une prestation minimum d'engagement pour le cabinet, mais on ne paiera que de mémoire 30% de la facture.
C'est
pas
par le
biais
du cabinet quand même que vous avez.
Non, c'est pas par le biais du cabinet. C'est par le biais de relations. Bien sûr, le candidat nous a fourni plusieurs candidats, mais qui n'ont pas retenu forcément notre attention.
Donc c'est pour ça qu'il y a 30% quand même qui sont pas. Ouais.
Alors, j'ai encore quelque chose à dire, mais je ne sais pas si c'est pas dans l'ordre du jour. Alors, je ne sais pas si je dois clore l'Assemblée et pouvoir le dire ou oui, il faut que je. Oui.
Donc l'ordre du jour est donc épuisé. Je vous remercie, mais je vous demande encore un petit peu d'attention. Proposer au Conseil municipal.